Bonjour et bienvenue dans Certains LMA Show, l'émission qui plonge tête baissée dans la nostalgie. Alors c'est moi Thomas et aujourd'hui je suis très content parce que je voulais présenter mes excuses parce que la semaine dernière je me suis quand même méchamment moqué de mon comparse Thierry, le grand Thierry, en le comparant à Vin Diesel. C'est quand même pas très malin de ma part, sachant que maintenant je l'ai vu tenter de rejouer Fast and Furious. Il m'a fait l'intégralité des 9 épisodes parce qu'il a vu le dernier et je peux vous assurer qu'il a quand même un sacré talent et que c'était un beau plaisir. Donc merci Thierry, tu es immense, tu es merveilleux. Bon c'est bon, ça le fait l'accent, on a capté que c'était pas lui.
Ouais, on a capté, c'est bon, c'est nickel.
T'as bon ben sinon, on a pris la direction de Clac, c'est le bordel, y a pas Thomas, on fait ce qu'on veut, voilà, on s'éclate.
Dissidence !
Dissidence, mais tellement !
C'est la révolution !
Alors, c'est fini les plateformes pourries, c'est fini les films tout sages là, c'est fini tout ça, là on se fait plaisir, on se fait du doudou. Voilà, parce que lui, il a vu Bloodshot, il a craqué, c'était le film de trop, on a pu s'en débarrasser, les médecins ils sont optimistes, ils sont là, oh mais une petite semaine de repos, gna gna gna, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup ? On s'est dit qu'on allait lui faire une petite sélection bien à nous. Un truc pour lui faire plaisir, des petits films doudous. On choisit chacun un film, on se fait plaisir. Ça vous va ?
Ah bah c'est génial, ça
j'adore. Ouais, c'est cool, la bonne franquette, hein.
Avec moi, les insatiables, mes petits comparses de toujours. Elle était persuadée de changer de nom tous les jours avant de réaliser qu'au lieu de lui raconter des histoires pour s'endormir, son grand-père lui lisait le bottin. Salut Yassa.
Salut.
Dans ses fantasmes de double identité, il s'imaginait polonaise, douce et subtile. Une entité avec laquelle elle pourrait converser poésie et symbolisme. On a trouvé son alter ego, finalement, c'est José, un proxénète alcoolique portugais, et qui aime quand même bien Jacques Rivette. Hein. Salut Ellie.
Salut.
Cette semaine, grande nouvelle, Clint Eastwood a fêté ses 90 ans. Et pourtant, l'homme des hautes plaines, ce bon vieux papy, va devoir rempiler les éperons, aller se battre dans l'Ouest américain parce qu'on en a un qui a toujours pas compris que quand t'es vieux, il est peut-être temps d'arrêter les conneries. Il l'attend derrière les talus, ce redoutable, vif comme l'éclair, le nouvel ennemi, el compañero. Salut Marwan.
Salut, amigo.
Donc vous l'aurez compris, des descriptions bizarres qui correspondent surtout au film qu'on a choisi. 4 films, choisis à chaque fois par des membres différents de l'équipe que les autres membres de l'équipe n'ont pas vu. Et on va pas vous dire tout de suite ce que c'était. Vous allez les découvrir avec les bandes annonces.
On t'a pas présenté,
c'est
Thierry.
Bah, en même temps.
Bah oui. Et toi, Thierry,
hein, on pourrait dire que t'es un vieux dégueulasse qui préfère toucher des marionnettes plutôt que des femmes. Peut-être.
Quoi?
tu mets des gâteaux dans les parties intimes de tes amis et ça t'amuse.
D'accord, donc en fait la dissidence, moi je t'ai dit vas-y, y a pas Thomas, on fait dissidence, tu l'as fait aussi contre moi quoi.
Ah, faut bien savoir qu'il y a 4 films quand même.
Ah
là là.
Faut attaquer le pouvoir hein, là où il est, hein, même si c'est un nouveau pouvoir.
Du coup c'est parfait, on va passer au premier film. La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski. Alors ici, on est moins dans le film d'enfance, on reste dans le film qui marque. Premièrement, on va suivre Véronika, jouée par Irène Jacob, qui va devenir choriste en Pologne dans un orchestre prestigieux qui est persuadée, par des pérégrinations mélancoliques, d'être liée quelque part dans un monde à une autre personne. Elle va malheureusement décéder lors de son premier concert, et à partir de là, nous suivrons Véronique, toujours jouée par Irène Jacob, à Paris, qui va être, alors qu'elle ne la connaît pas, profondément affectée, et se mettre à suivre la même mélancolie. Ellie, tu as choisi ce beau film sur le lien invisible, est-ce que tu peux nous expliquer ton rapport à la double vie de Véronique ?
Bah, c'est un film que j'avais découvert il y a 3-4 ans, je crois, et qui sur le coup, en fait, m'avait mais détruit. Enfin, c'était une grosse claque. Et c'était bizarre parce que j'avais un peu oublié le film, parce que j'avais vu dans un moment assez particulier. Et le film, j'avais juste des fragments, une espèce de sentiment qui me restait et qui du coup... depuis 4 ans, me hantait en quelque sorte, et je voulais absolument m'y reconfronter, voir pourquoi en fait j'avais depuis tant d'années cette espèce de note en moi qui perdurait. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour essayer de vous faire découvrir ça, parce qu'en plus, Kieślowski, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissiez, enfin, je ne sais pas si vous avez vu d'autres choses de lui, et du coup, ça peut être, enfin, je me disais que c'était une bonne occasion de à la fois faire découvrir un film qui m'avait beaucoup marqué, moi de le redécouvrir et en même temps de faire découvrir un cinéaste qu'on peut oublier.
Bah merci Ellie pour ce choix, en tout cas moi personnellement j'ai bien aimé, mais on va pas prendre mon avis tout de suite. Qui veut commencer sur ce film et donner ses impressions?
Bah pourquoi qui vous voulez?
Marwan.
Donc on commence par les meilleurs. C'est gentil. Mais ouais, non, pour le coup, pareil, ça a été une sorte de claque.
Podcast.
C'était une sorte de révélation. Et faut que je vous raconte un moment en particulier, c'est celui où elle commence à chanter devant quelqu'un qui la juge. Et dès que la musique commence à apparaître, je sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré. C'était instinctif, j'ai rien compris. C'est entré en moi comme si... ça voulait me parler de tellement de choses, de l'errance, de tout ça, et j'ai été bouleversé. J'ai tellement lâché, particulièrement lors de la scène de chant, la scène finale, entre guillemets, de la première partie. Et vraiment, je trouve que c'est un film intelligent qui laisse à découvrir et à redécouvrir. C'est-à-dire que c'est pas un film que l'on voit qu'une seule fois. C'est un film qui a besoin d'être revu, non pas pour être davantage compris, mais pour s'en imprégner et en saisir davantage l'essence. Et c'est merveilleux. Ça parle de la mort en toute subtilité, de l'aisance, du créateur et de la vie, quoi. Et ça m'a bouleversé, comme rarement des films me bouleversent, quoi.
Oui, un film qui est très, très mélancolique, qui est très touchant, qui prend son temps, qui a une espèce de douceur. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'espèce de douceur, avoir l'impression que quelqu'un nous englobe, nous prend et nous amène ailleurs et surtout nous tient la main constamment en nous disant tout va bien se passer, même si ce qu'on voit au final à l'écran ne se passe pas toujours très bien. Yassa, toi, est-ce que tu as été touchée, du coup, comme Marwan, par ce film?
Oui, j'ai été touchée, notamment dans la première partie qui se déroule avec Véronica en Pologne. J'ai trouvé que c'était quelque chose, ça se rapprochait plus d'une mélancolie un petit peu teintée de nostalgie qui m'a immédiatement touchée, qui m'a immédiatement parlé. Alors que la seconde partie, donc on suit Véronique du coup, j'ai eu l'impression que ça se rapprochait un petit peu plus du spleen. C'était un petit peu plus malaisant alors que dans la première partie, j'étais plus... j'étais bien en fait, même si c'était mélancolique, nostalgique, triste, un petit peu, il y avait une douceur qui se dégageait de ça, qui est, je pense, en rapport avec la musique, parce que dans ce film, il y a un rapport à l'art en général, qui n'est pas frontal, qui est vachement doux, vachement épuré, qui se prend pas la tête en fait. Et pas que la musique, hein, parce qu'on voit... à travers des autres personnages, voilà, il y a une importance accordée aux livres, aux parfums, à la menuiserie, enfin des choses comme ça, aux dessins, etc. Et du coup, je pense que vraiment, si je devais décrire ce livre, ça serait ce film, ça serait un film artistique, vraiment. Pour le coup, il y a tous les ingrédients qu'on pense retrouver chez un artiste, c'est toute cette douceur, cette écoute du monde qui nous entoure. Et on réussit à la ressentir aussi, donc franchement, thumbs up.
Ouais, le spleen, c'est clairement un bon terme, c'est ce que tu dis. Et c'est vrai qu'il y a ce côté nonchalant, justement, qui pourrait limite laisser penser qu'il ne se passe pas grand-chose, alors qu'en réalité, tout passe par, justement, les émotions et tout ça. Moi, je pense beaucoup à Irène Jacob, elle a eu le prix d'interprétation féminine, et c'est amplement mérité. Bon, alors, elle a travaillé régulièrement avec Lisowski, d'ailleurs, elle est dans la trilogie des Trois Couleurs, qui est actuellement sur Netflix, pour ceux qui pourraient... avoir envie de s'intéresser à cet auteur.
Ouais,
une très bonne trilogie. Et oui, le film a fait un beau parcours à Cannes, du coup, il a eu 3 prix entre le Fipreski, le jury ecumenique et le prix d'interprétation féminine. Irène Jacob a été nommée dans pas mal de catégories dans des festivals. Et du coup, c'est, voilà, un très beau film. Malheureusement, le genre de film qui, aujourd'hui, est pas forcément tombé dans l'oubli, mais resté dans des publics des connaisseurs. Et en tout cas, ça ferait du bien de le voir revenir sur le devant de la scène.
Et pourtant, ouais, elle est magnétique. Elle dégage quelque chose que également qui est terriblement rare et terriblement sincère. Ça, c'est vraiment une sincérité qui se dégage de ses rôles et particulièrement de celui d'Irène Jacob. Une beauté, mais qui est transparée par sa simplicité, par cette idée de compréhension, d'incompréhension qu'elle vit dans le film. C'est assez prodigieux. Vraiment, c'est... ça manque en retourner.
C'est ça, c'est qu'elle renvoie en fait une image à la fois de femme forte et à la fois de femme fragile. Et le mix entre les deux, il y a un équilibre qu'elle arrive à atteindre qui en devient fascinant en fait. Franchement, je ne pouvais pas lâcher l'écran des yeux. J'étais happée dès qu'il se passait quelque chose. La moindre de ses réactions me fascinait en fait. C'est incroyable.
Donc La double vie de Véronique, c'est un film qu'on vous conseil. C'est vrai que c'est, il faut pas en dire énormément. Ellie, tu voulais dire quelque chose peut-être?
Non, bah en vrai, enfin, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Vraiment, genre vraiment, ça m'aime beaucoup parce que bah, c'est le fait de c'est ce que je vous ai incité à voir déjà et que ça vous plaise autant. Mais genre la réaction de Marwan qui dit qu'il est tout retourné par le film, il y a ça aussi, même toi Thierry. Je sais pas, c'est moi du coup je l'ai revu cet après-midi. C'est le dernier film que j'ai vu de la sélection qu'on a faite. Et en fait, il m'est arrivé la même chose qu'à Marwan, c'est-à-dire que le film a commencé et puis la musique s'est lancée. Et j'ai fondu instinctivement en larmes.
C'est fou, hein.
En fait, c'est je sais pas, il y a quelque chose de surpuissant. Et ce film évoque beaucoup trop de choses. Il est à la fois dense tout en étant très très simple. C'est une espèce, enfin, je trouve ce film d'une grâce vraiment, mais vraiment folle. La caméra a l'air de flotter tout le temps, comme si on avait vraiment l'idée d'un fragment d'âme qui erre dans le cadre. Il y a des scènes absolument dingues. Enfin, la scène de, c'est pas un spoil, mais juste une scène de concert, hein, qui, quand on a vu le film, voilà, forcément, elle évoque quelque chose. Mais c'est, enfin, cette scène, je la trouve magistrale en tout point, que ce soit la mise en scène, la musique qui, encore une fois, est puissante. La musique, elle dégage vraiment quelque chose de fort. Et tout ce rapport à l'art que disait Yassa est vrai. Enfin, c'est un film qui parle de c'est une histoire d'âme sœur, littéralement. J'ai encore du mal à mettre des mots dessus, et ça m'arrive rarement. J'ai l'impression que Kieslowski arrive à toucher quelque chose d'indicible, de presque indescriptible, et d'universel, parce que visiblement, on est tous touchés, et le film a quand même eu un gros succès à l'époque. Et encore aujourd'hui, je connais des gens qui l'ont découvert il n'y a pas longtemps, qui ont adoré. C'est surpuissant, et je trouve ça dingue que ce film, on en parle plus tant que ça, alors que il fait du bien. Moi, ça m'a même rappelé, je pense, que un cinéaste comme Jean-Pierre Jeunet, par exemple, s'en est beaucoup inspiré. Parce que toute la deuxième partie en France, avec Véronique, ça fait très Amélie Poulain, toute cette espèce de jeu de piste avec une quête existentielle de son personnage. C'est littéralement la même histoire, presque, à ce niveau-là. Avec, il y a même des unités, on revient à la gare, etc. Il y a plein de similarités, et puis avec, je pense, plein d'autres cinémas. Et donc, ouais, c'est un film qui, je trouve, à la fois très triste et très beau, enfin, c'est bizarre, il y a cette espèce d'ambivalence constante. Et
bah,
voilà,
tu vois, c'est exactement ce que j'ai ressenti, et ça m'a fait penser en fait au morceau de Beethoven, Lettre à Élise, où en fait, quand tu écoutes le morceau, tu sens la douleur dans les notes, et à la fois, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça magnifique. Et c'est ce mélange de ces deux émotions complètement contradictoires qui donne un petit peu un goût de mystère, et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre le doigt, qu'on ne peut pas réellement décrire avec des mots, et c'est juste du ressenti, c'est juste de l'émotionnel. Et je trouve que véhiculer ça à travers un film et d'en sortir et de dire ben j'ai aimé, et par contre je saurais pas te dire exactement ce que j'ai aimé, mais j'étais bien, et je pense que voilà, c'est un film réussi.
En fait, j'ai envie de dire que j'ai tout aimé, tu vois. Ben, franchement, je vois vraiment pas beaucoup de défauts au film. C'est jamais très long, c'est pas très long, il dure qu'une heure et demie en plus. Très très bien rythmé, et tout s'enchaîne assez bien, c'est assez limpide. Je trouve que tout le jeu justement sur la dualité est vraiment bien amené. Il y a jamais un moment où on est perdu, sans qu'ils nous prennent non plus par la main, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous prennent pas par la main, mais on comprend tout par la mise en scène, par le montage, les raccords sont légers, enfin, tout est d'une subtilité assez folle et d'une grande poésie. Je trouve vraiment le film est très poétique.
Ouais. Enfin, toute, c'est l'errance, hein.
La scène où elle prend le lacet et qu'elle le compare à la courbe de son cardiogramme, là, je sais pas, mais ce genre de petits moments-là, c'est ces petits gestes qui gonflent le film, comme ça, de quelque chose de très humain, de très beau, de très profond. Et Irène Jacob, comme elle dit Thierry, elle est formidable. J'ai pas encore vu...
J'avais juste une question.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment elle qui chante dans le film?
Je me pose aussi la question.
Ça, je ne sais pas. Alors, je sais qu'elle est doublée pour la partie polonaise. Ça, c'est assez marqué à la fin. Pour le chant, je n'ai pas fait attention. En tout cas, la voix est très très belle.
Ah, la voix, elle est cristalline. Hein,
si c'est elle qui a cette voix-là, eh bien, elle a beaucoup de chance. Parce que franchement, c'est fort. Non, mais oui, c'est très très grande comédienne. Enfin, rien que sur ce film-là, en fait, il n'y a pas de questions à se poser, quoi. Elle vole tout. Enfin, c'est impossible. La performance est juste parfaite pour ce qu'elle a à faire. Et voilà, elle est très touchante. Et vive Krzysztof Kieslowski. S'il y en a qui s'intéressent aussi, au-delà de la trilogie de trois couleurs, il a fait un autre truc qui est très connu, c'est le Décalogue. Donc, il reprend les 10 commandements de Dieu avec des mini téléfilms d'une heure. Et il en a développé deux en long métrage qui sont Une brève histoire d'amour et Une tueur à point. Et j'ai vu Une brève histoire d'amour et. Franchement, c'est pareil, je recommande ce film à tout le monde. C'est pareil, c'est très bouleversant, très très subtil, tout en contrebalance entre des émotions. Et voilà. Je pense que c'est un cinéaste à redécouvrir. Il a fait pas mal de films, mais il y en a pas mal qui sortent du lot et qui sont c'est assez facile à regarder en plus. Donc voilà.
Ah, je suis curieux. Mais en tout cas, merci beaucoup de l'avoir proposé, hein, même si ça m'a totalement déchiré.
Ah oui.
Ouais, bah, du coup, j'ai hésité parce que je pensais même pas que ça remuerait autant, même moi. Hein. Et voilà, si j'ai pas pensé à d'autres films à la base. Je me dis que ce serait peut-être le plus doux que je pouvais proposer, mais au final, c'est d'une douceur assez particulière, quoi.
C'est ça. Un peu amer, quoi. Mais c'est d'une puissance. Mais j'adore les errances d'Irene Jacob, la manière dont elle est filmée, dont on la suit constamment, comme si elle cherchait à rattraper quelque chose. On a toujours pressé. C'est impressionnant. Comme si elle devait retrouver cette hamster.
L'idée du manque est parfaitement retranscrite, en fait. Enfin, cette espèce de quête invisible. Il y a un côté vraiment mystique dans le film, je trouve.
Manque, la quête invisible.
Ouais.
Non, je te suivais.
Non, mais t'inquiète, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose de mystique, presque religieux en quelque sorte. Je sais pas, c'est très particulier.
On parle de mystique, on parle de fantastique, on parle d'aventure également. Et oui. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de notre prochain film. Alors, on va changer quand même pas mal d'ambiance, mais on va partir aussi loin dans de l'aventure. Grandfather's here. Can't you tell me I'm sick? He'll pinch my cheek. I hate that. Maybe he won't. Hey, how's the sick? Huh? I brought you a special present. What is it? It was the book my father used to read to me when I was sick, and I used to read it to your father. And today, I'm going to read it to you. It was a time when life didn't seem so complicated. Marriage is what brings us together today. What? I'm killing myself once we reach the honeymoon suite. The Princess Bride de Rob Reiner. Alors Rob Reiner, on le connaît quand même, hein. C'est le faux documentaire Spinal Tap. C'est Quand Harry rencontre Sally, c'est Des hommes d'honneur, c'est Stand By Me, c'est l'adaptation de Misery avec Katie Bates qui a subjugué tout le monde. C'est quand même une grosse carrière. Ici, il se prend d'amour pour un roman, il en prend les droits, il l'adapte et il nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est joué par l'enfant star Fred Savage, qui alors qu'il est malade reçoit la visite de son grand-père, Peter Falk, qui vient lui raconter une histoire de princesse, de chevalier, d'aventure en tout genre, qui nous rappelle l'importance de tous ces petits récits qui ont forgé notre imagination. Il y a ça, pourquoi est-ce que tu nous conseilles ce film ?
Je vous ai proposé ce film parce que je l'ai découvert il y a environ 4 ans, et la première fois que je l'ai vu, je me suis juste dit... J'aurais adoré le voir dans mon enfance. Je me suis tout de suite prise d'amour pour cette histoire. C'est une histoire assez classique, avec une demoiselle en détresse, un méchant, des protagonistes aussi qui vivent leurs propres aventures, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Si ce n'est qu'il y a une certaine magie qui fonctionne quand on regarde le film. J'ai tout de suite été emportée dans l'histoire et j'étais investie avec les personnages et je voulais qu'ils réussissent. Pour certains, je voulais qu'ils échouent, pour d'autres, j'ai retrouvé mon âme d'enfant avec ce film. Et je dois dire que je le regarde chaque année, une fois par an, parce qu'il me fait du bien. Vraiment, il me fait du bien, ce film. Donc j'espère qu'il vous aura fait du bien aussi. Je suis pas sûre pour tout le monde, mais je sais qu'il y en a certains qui ont apprécié, d'autres pas.
Donc c'est à qui de commencer? Moi, je commence aussi, alors.
Maron, vas-y.
J'ai vu un petit peu... avec un œil ouvert, les retours de mes comparses. Et je me suis dit, ah, déjà que de base, j'avais un petit a priori. Ah, est-ce que je vais réussir aussi à passer le moment, quoi? Et finalement, c'était vraiment une belle surprise. C'est un film qui questionne l'imaginaire chez l'enfant et la construction de notre univers qui est personnel. Et je trouve qu'il y a quand même une certaine justesse dans tout ça. On sent que l'histoire est quand même un petit peu racontée à la sauce du père et du grand-père plutôt. Et il y a cette magie, cette évasion, cette exagération qui finalement crée un effet comique qui a constamment fonctionné chez moi. Et bah que ce soit par rapport à Montoya qui répète toujours son nom, qui cherche toujours à tuer, il reprend tous les grands classiques, toutes les grandes histoires de vengeance, d'amour, de tout ce qu'on veut quoi. Mais c'est ça, c'est une sorte de parodie. Qui ne se dit pas parodie et qui fonctionne et qui assume tout, qui assume ses décors carton-pâte et qui m'a fait mourir de rire quand par exemple dans le combat des fois les escrimeurs, enfin les épéistes sautent d'un point A à un point B et on sent que c'est il y a un matelas en dessous. C'est trop drôle. Moi je suis je meurs de rire quand je vois ça. Et c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça génial personnellement, vraiment j'ai
passé
un bon moment.
Non mais en fait c'est ça, c'est une aventure qui est racontée mais un petit peu bricolée, tu vois, c'est quand
ça.
Tu regardes le film, t'as l'impression qu'on te le raconte, tu vois, t'as pas l'impression de regarder un film monté, etc. Moi quand je le regarde, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me le raconter en fait, parce que ça va dans tous les sens, parce qu'il y a des scénarios ou des retournements qui vont pas tenir la route, etc. Mais pourtant, t'es là, t'es dans l'histoire, tu dis oui, vas-y. T'es comme un enfant, tu veux savoir la suite et tu t'en fous en fait de des incohérences et des décors en carton, quoi. T'as juste envie qu'on te raconte l'histoire.
C'est ça. Et en plus, elle est magnifique, Robin Wright. C'est un peu magnifique. Elle est magnifique. Elle est vraiment fabuleuse. Et puis non, c'est excellent. Ça se fout du genre. Et je tenais à dire que là, pour le coup, je me rends compte que le film avec Kev Adams, c'est Aladdin, c'est ça? Genre la grosse pique. Je sais juste que... Je l'ai pas vu, mais je sais juste que c'est...
On a perdu Marwan.
Non!
Marwan!
Reviens, Marwan!
Marwan!
Je crois que c'est fait tuer par Inigo Montoya.
Est-ce que nous allons y arriver tous les Marwan?
Qu'est-ce qu'il y a? T'as coupé?
Ouais.
Ah oui,
ça a coupé.
Ah,
au moment où c'est devenu intéressant.
Ah, oui.
Je disais quoi là?
Ah bah du coup c'est cool, on va enlever un peu d'avis positif.
Non
parce juste... que bon, là tu parles de construction de l'imaginaire, tu parles de parodie, tu parles d'un humour qui passe bien, d'une belle histoire bien faite.
Ouais.
Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous avez regardé comme film? Vous avez regardé un vrai film d'Heroic Fantasy ou comment ça se passe?
Bah non, c'est pas ça, c'est au contraire, c'est l'heroic fantasy imaginé par un enfant, quoi. Et donc t'as toujours...
Allez, laisse argumenter les grands.
Ah non, mais c'est ça, c'est totalement ça.
Non, mais c'est super intéressant ce que dit Marwan, je trouve.
Non, c'est intéressant, mais je suis quand même pas du tout d'accord avec ça.
Non, mais en fait, je pense que... Enfin, du coup, Thierry et moi, pour le coup, on est d'accord, on est vraiment deux contre deux pour le coup. C'est que Thierry et moi, on a, je pense, quasiment le même ressenti sur le film, on n'est pas vraiment rentré dedans. Et nous, le côté imaginaire par un enfant... En fait, je trouve que le film a un problème de ton, c'est que, je sais pas... On a l'impression qu'il essaie d'être une parodie, mais en même temps pas tellement, parce qu'il se moque des codes, mais il les utilise quand même d'une manière qui fait presque très vrai film d'Heroic Fantasy. Je sais pas, il est toujours dans une espèce de balance un peu bizarre. Il y a des moments qui fonctionnent plutôt bien. Moi, je suis d'accord que la scène de la falaise du combat, là, c'est plutôt rigolo. Ça va, il y a des trucs... Enfin, c'est un des rares moments où vraiment je ris un peu. Mais sinon, je trouve que moi, l'humour ne m'a pas du tout touché. Mais à aucun moment, j'ai trouvé le temps très très long. Alors que pourtant... Bah, ce film, il y a beaucoup de choses que j'aime. Déjà, il y a Peter Falk. Et Peter Falk, c'est mon bébé. Déjà, c'est une honte d'avoir Peter Falk que de le faire apparaître aussi peu dans un film. Hein. Ça, je tiens à le dire. Quand tu as Peter Falk, tu le mets à chaque putain de cadre. Voilà, il devrait même avoir sa petite vignette en haut à droite de l'écran, je pense, pendant qu'il
raconte.
Non, mais blague à part, il y a aussi tout le côté kitsch des décors et des costumes. C'est trop cool. Enfin, la reconstitution est dingue. Et ça, je l'accorde complètement au film. Rob Reiner, là-dessus, il a une belle équipe avec lui. Et puis, il filme ça plutôt bien. Par contre, mais c'est vraiment toute l'écriture, moi, qui me gêne. Et que je trouve un peu à la masse. Une vraie parodie sans en être une.
C'est ça, ouais.
Un espèce de conte sans en être trop un. Et je trouve que c'est l'idée du fait de raconter. Enfin, qu'on raconte l'histoire à un gosse et qui derrière, on comprend un peu que c'est lui qui se l'imagine. Mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'on dirait que c'est... Enfin, justement, on sait pas si c'est lui qui se l'imagine, parce que... On pourrait croire aussi que c'est juste la représentation mot pour mot de ce qui est écrit dans le bouquin à travers les mots de Peter Falk, en fait.
Après, t'as l'imagination, encore une fois. Et pour peser vos mots, je vais vous dire un truc. Dites-vous que le film genre sur Aladdin avec Kev Adams, c'est une version nulle de ça, en fait.
Ah merde. Non, mais après,
c'est une version nulle de tout, hein, les aventures d'Aladdin.
Voilà,
non, mais ce que
après, il n'y a pas de débat possible.
C'est même une version nulle des films en général.
Même si, pour le coup, il y a un truc qu'Aladdin faisait et que là, j'aurais peut-être aimé que ça fasse plus, c'est le côté où, quand il raconte l'histoire au gosse, Kev Adams, bah, les gamins interagissent et ça influe vraiment sur ce qui se passe sur l'image.
Je vais me permettre, Ellie, de te couper.
Vas-y.
Parce que justement, bah, c'est exactement ça, et c'est surtout ça, en fait, moi, qui m'a dérangé, parce que du coup, t'as mis en avant plein de choses, mais au-delà, moi, voilà, du côté parodique que j'ai trouvé excessivement faible, et en tout cas, pas suffisamment, bon, je m'attendais pas non plus à quelque chose comme Sacré Graal, mais quitte à parodier, j'aurais préféré que ça le fasse un petit peu mieux, et que ça s'en moque vraiment, et là, j'avais l'impression que ça essayait quand même de raconter une histoire, parce qu'il fallait que l'histoire soit belle, alors, pourquoi pas, mais ça m'a pas embarqué. Ça, après, ce sera sûrement une question de goût, ça vous embarquait, tant mieux. Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est cette espèce de fusil de Tchekhov constant avec la narration du grand-père. Parce qu'au final, pour moi, elle sert à rien. Parce que elle est interrompue de temps en temps. Et c'est juste pour que le gamin dise « Elle est nulle, ton histoire. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je veux pas les voir s'embrasser. Je veux de l'action. Ah, attends la suite. » Et après, on voit que finalement, ça plaît au gamin. Donc, c'est une façon de dire « Oui, accepte aussi les histoires qu'on te raconte. Tu vas voir qu'elles ont un intérêt. » Et chérie aussi... toutes ces histoires-là, intéresse-t-y, cultive-toi, ça, tout à fait. Mais, en fait, en faisant ça, j'avais constamment l'impression qu'on allait me dire, il y a un moment où le film va changer de ton et où le gamin va justement proposer des alternatives, dire au grand-père, ah non, ils peuvent pas faire ça, ils vont faire ça, et on va retourner la scène.
Ah,
et j'aurais trouvé ça
cool,
génial,
ça.
En fait. Moi, c'est ça que je m'attendais à voir, et le problème, c'est que, avec toutes ces interruptions, je me disais, bon, quand est-ce que le film va changer de ton? Et finalement, ils le font pas. Donc, ces interruptions, à part dire c'est nul et après ça recontinue de la même manière avec la même narration, ça m'a pas du tout convaincu. J'ai juste eu l'impression qu'on essaie de me vendre Fred Savage parce qu'à l'époque, Fred Savage c'était la superstar des gamins et que tu pouvais vendre n'importe quoi avec lui. Et je me disais juste, bah ouais, vu qu'on n'a pas pu le mettre dans l'histoire, on le fout là histoire de dire, vous avez vu, il y a Fred Savage, les enfants, donc vous allez le voir. Et c'est, ça m'a pas convaincu, mais pas du tout. L'histoire, je l'ai trouvée très plate. Après, c'est volontairement cliché, c'est le cliché du conte de fées de A à Z avec tous les ressorts et tout, enfin, tous les tenants et aboutissants qu'on connaît, qui sont condensés en un métrage, mais ça manquait totalement de panache et de cohérence. J'ai trouvé que la mise en scène était très plate parce que bon, Rob Reiner, j'ai cité ses films, mais je les trouve assez mauvais en général. Pour moi, c'est pas un bon réal, quelqu'un que je trouve assez plat. Et là, pour moi, il brille pas, quoi. Je sais que ça lui tenait énormément à cœur comme projet, mais j'ai juste l'impression de voir un énième film lambda. Enfin, après, moi, je suis pas fan de tous ces films-là, tu vois, de tous ces films des années 80, qui étaient de la marque Amblin, là, qui marchait bien. Moi, même petit, enfin, au final, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu Princess Bride gamin en le revoyant et qui m'avait pas marqué. Et alors qu'il aurait dû me marquer comme Willow, comme les Goonies, qui m'avait pas marqué non plus. Et je sais pas, j'ai eu un rejet de tout ça. Et là, je le vois et je me dis, mais même maintenant, en le regardant dans notre œil, j'arrive pas à le réhabiliter et à me dire, gamin, j'aurais apprécié ou j'aurais dû l'apprécier.
Je suis pas forcément d'accord dans la mesure où quand même les gags je les trouvais soignés et que au contraire de choisir un peu une zone un peu grise d'humour faisait que qu'on ça proposait quand même une certaine liberté de narration, ça laissait vraiment pas mal de choix à cet imaginaire, donc vraiment c'est, je pense que c'est ce côté là c'est un film qui va être du genre à soit la personne va beaucoup aimer, soit vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui va créer des dissensions plus qu'autre chose en réalité. Parce que c'est par rapport à le rapport des gens à l'imagination et en même temps à cette chose de ne pas forcément décider entièrement du genre qu'il choisit. Des fois, ça peut être quelque chose qui peut déranger chez les gens qui regardent un film. Ils aiment bien quand même être à l'aise dans ce qu'ils voient.
Ouais, mais c'est pas spécialement notre cas non plus, tu vois. Enfin,
je sais que vous êtes tout libre de tout.
Bah, tu vois, parce que surtout quoi, alors moi j'aime bien, je limite les films que je préfère au monde, c'est les films qui vont me fracasser la tronche et justement je me sens pas bien, tu vois. Non mais je sais pas, c'est un peu particulier, mais je pense que il y a un côté, ça dépend de l'imaginaire de chacun. Moi je sais que j'aime beaucoup, hein, je suis quelqu'un j'accroche facilement aux univers comme ça, un peu fantaisiste, mais là pour le coup non. Je pense que voilà, comme je dis, c'est dû à ce qu'on a évoqué avec Thierry, pour le coup à cette espèce de fausse narration, enfin de narration un peu particulière, etc. Mais du coup j'ai 2-3 trucs à dire, c'est que le bon point quand même des coupures avec le gamin et Peter Falk, c'est que ça permet à Peter Falk de mal parler au gamin et je trouvais ça hilarant.
Vraiment, mais surtout Peter que Fred Savage il a tellement une tête à claque.
Mais c'est ça, il y a Fred Savage qui a une tête, il est insupportable, et il y a Peter Falk avec une grosse moustache blanche de papy là et qui lui dit mais tais-toi et écoute, j'étais mais éclaté vraiment, ça me faisait trop rire. En vrai, on a tous envie d'avoir un Peter Falk en grand-père je pense. Et autre truc, c'est que t'as cité les Monty Python, et je suis d'accord que moi ça m'a fait beaucoup penser à ça, et forcément la comparaison fait mal, encore plus mal à Princess Bride quand tu penses aux Monty Python pendant le film, parce que Sacré Graal, c'est extraordinaire. C'est moi ça m'a surtout fait penser à Shrek, et ça m'a donné envie de revoir Shrek ce film.
Franchement, c'est une version tout public de Shrek en fait, sans le mordant.
Ouais voilà, en fait c'est la version calme de Shrek, mais pour moi Shrek relie mieux les codes du conte de fées en faisant plus un côté parodique, encore plus appuyé, je sais pas. Et en plus il y a des persos qui ressemblaient, donc l'ogre, ça pourrait être le gros là qui est joué par André le Géant, d'ailleurs ça m'a rappelé.
Qui est joué par André le Géant, ouais c'est son nom.
Et ça m'a rappelé, parce que du coup moi je suivais le catch quand j'étais gamin, et voir André le Géant, bon il catchait plus à l'époque, mais je connaissais, ça... Ah ça faisait un petit plaisir quand même, sa bonne bouille là. Il se fait fumer en deux par le Zorro du Bled, là, mais... mais c'était rigolo. Non, mais en vrai, je comprends qu'on puisse avoir une attache liée à ce film facilement, mais je sais pas, c'est très particulier. Je pense que, comme dit Thierry, c'est beaucoup... Il y a toute cette vibe des années 80 qui, peut-être, aujourd'hui, commence encore plus à diviser, ou je sais pas, ça passe ou ça casse, on va dire. Ça doit dépendre des films.
Moi, ce que ça évoque en moi, en fait, c'est que quand je l'ai vu, ce film... Ça m'a beaucoup fait penser à La Caverne de la Rose d'Or, qui est un film italien. Et ça, c'est un film que j'avais vu quand j'étais très jeune. C'est aussi un univers fantasy, fantastique, etc., où se déploie plein de magie, etc., beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a beaucoup fait penser à ça, ce qui fait que j'y ai déjà un attachement préalable. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pris ce film à bras-le-corps, quoi. Ça me renvoie à des périodes de ma vie où j'étais extrêmement bien, où tout était simple. Ouais. Du coup, Du coup, ça facilite grandement.
C'est un film doudou, quoi.
Ah oui, oui, carrément, complètement.
Non, mais oui, non, mais c'est... En vrai, c'est... je comprends complètement. Hein. Et je suis un peu triste de ne pas l'avoir aimé, même en film doudou, ou je sais pas, juste d'avoir peut-être plus été atteint par l'humour, parce que... Oh, en soi, le film n'est pas non plus... Enfin, il n'y a rien de méchant dans le film, ça se voit que c'est fait pour être mignon, etc. Et c'est triste quand t'as un film comme ça et que tu rentres pas dedans. Bon, déjà que de base, je suis quelqu'un d'assez cynique et monstrueux.
Mais non.
Là, je me sentais encore... Ça renforce ce côté-là quand tu t'es pas touché par un film qui se veut comme ça, très gentil pour les enfants, il y a tout ce rapport, bah... à cet imaginaire qu'on a quand on est petit. C'est un film que ça fait un peu chier de pas aimer, je trouve. Mais bon, on décide pas comme ça, c'est triste.
Ah bah ouais.
C'est ça, ça passe, ça casse. Mais en tout cas, t'as vu, hein. Il y a au moins une personne qui l'a apprécié. À sa juste valeur.
Je suis contente. Un peu de soutien.
Ah bah en vrai, c'est cool de l'avoir découvert aussi. Je suis pas fâché de l'avoir... parce que ça fait longtemps que j'en avais entendu parler.
Ah bah tant mieux.
Ça fait longtemps que j'en avais entendu parler. J'avais jamais pris le temps de le voir. C'est toujours intéressant de voir des films comme ça. En plus, savoir que ça te tenait à cœur, et je comprends en soi. Hein, tu vois, c'est juste que je pense que c'est très subjectif. On avait déjà parlé la semaine dernière sur le fait qu'on avait forcément des goûts qui pouvaient diverger. Et bah là, c'est le cas, par exemple.
Et une découverte cinématographique, ce n'est jamais de trop, qu'elle nous plaise ou pas. Bon, enfin, des fois, c'est un peu trop abusif, mais là, ça va.
After.
Qu'elle nous plaise ou pas. Il faut toujours découvrir des choses. Toujours découvrir des choses qui nous plaisent, qui nous déplaisent, et surtout comprendre pourquoi. Alors, on va continuer à bouger. On va aller voir un nouveau grand-père, un grand-père mexicain qui va nous raconter une nouvelle histoire.
Vamos a matar, compañero!
Pero dame el aire en los sombreros. Vamos a matar, compañero.
Vamos a matar, compañeros.
La musique est incroyable.
Vamos a matar, compañeros. Je vous la fais.
Non, c'est exactement comme ça. C'est génial.
En même temps, le film est comme ça. Hein.
Oui.
Vamos a matar, compañeros, de Sergio Corbucci. En français, Compañeros, western spaghetti prenant place dans la révolution mexicaine, qui nous montre l'épopée de deux hommes, un dandy suédois et un Che Guevara improvisé, qui doivent ramener un leader politique pacifiste pour s'en mettre plein les fouilles. Bon, Marwan.
Oui.
Vas a matar compañeros, ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous emmener au milieu des pistoleros?
C'est, au départ, quand t'as proposé, de choisir un film qui nous touche par rapport à notre enfance, par rapport à tout ça, quand j'ai découvert il y a 2 ans de ça, j'ai vraiment eu l'impression de retourner en enfance, parce que ce western spaghetti avait tout de ce qu'on imaginait gamin. Pour le coup, c'était vraiment ça. Je trouve qu'il y a une suite un peu logique. Sauf qu'une fois, ton film, c'est pas pour les gamins. Mais non, t'as ce côté vraiment... Il est merveilleux dans sa musique, dans ses personnages. C'est vraiment des personnages qui sont caractérisés à fond et qui jouent leur rôle, qui semblent, au départ, j'ai l'impression, un peu manichéen, mais qui finalement nous montrent... Enfin, on voit à peu près tout venir, mais... nous montre que les personnages ont tous leurs pattes, leur écriture, et c'est génial. C'est, il y a plein de rebondissements, voilà, tu suis les charismes des uns et des autres, et ça m'a donné envie de voir tous les Corbucci, et apparemment il en a fait des très très bons. Et c'est aussi, si je voulais proposer, c'est parce que c'est un pied pour ceux qui n'ont pas encore découvert des films qui sont dans l'univers et dans la patte de ce qu'a fait celui qui a fait le poignet de dollars, pour une poignée de dollars.
Sergio Leone.
Voilà, et c'est cette idée-là, c'est qu'en gros, un Corbucci est, pour moi, pour le grand public, un oublié d'un cinéma western spaghetti qui est en réalité de très très bonne facture, quoi. Et vous? Alors là, pour le coup, je ne sais même pas votre opinion sur ce film, donc je suis curieux. J'espère que vous n'allez pas trop défoncer le film. Je vous écoute.
Il est en stress, Marwan, là.
Ah, mais grave. Attendez, je bois de l'eau. Je vous écoute.
Alors, je tiens juste à préciser, parce que avant qu'on commence, tu disais que justement Corbucci était un oublié, et du coup, c'est assez triste. Je tiens quand même à préciser que ce mec a réalisé 64 films.
Ouais.
Donc, au bout d'un moment, c'est quand même triste qu'on ne le cite pas.
Après, il est pas. Enfin, ça. Je pense que c'est pas le plus oublié des réalisateurs de western spaghetti, mais il était quand même
sûr.
C'est le deuxième plus connu peut-être après Leone, puisque Leone est tellement connu qu'il couvre tout le monde, je pense aussi.
Mais il y a par exemple Django qui est assez connu, je pense.
Oui, et le grand putain de silence. Bon, faut enlever putain de... Non, mais...
Oui, le grand silence.
C'est horrible, silence.
Mais le grand
silence... En italien, ça s'appelait « Il grande puttano de silenzio ».
Exactement. le grand silence de Corbucci, c'est extraordinaire. Hein. Vraiment, c'est un des meilleurs westerns que j'ai vu, que j'ai vu de ma vie, avec Trintignant et Klaus Kinski qui s'opposent. C'est d'une noirceur folle. C'est un western hivernal, en plus. Et c'est mais incroyable, vraiment. Hein. Je conseille ça à tout le monde. C'est vraiment, pour le coup, en fait, dans le western spaghetti, il est encore plus dans la série B que ce que c'est de base, en fait, un western spaghetti. C'est ce qui le différencie pas mal, je pense, aussi d'un Léon, qui avait des films quand même qui étaient peut-être plus...
Il est dans une beaucoup, hein, déjà.
Qui rentrait peut-être plus dans les codes.
Enfin, après, non, j'ai pas l'impression,
plus sérieux.
Non, bah, après, ça a toujours été un précurseur, en réalité. C'est cette idée que ce petit Italien, au départ, on lui dit, fais un péplum, parce que tu sais faire que ça, donc il le fait. Et après, il va décider de faire un western. Et là, on dit, mais c'est pas possible, t'es un petit Rital, tu pourras pas faire ça.
Ah, tiens, le Léon, là?
Oui, de Léon, tu vois, à chaque fois, c'est un mec qui arrive toujours au contraire, à être le premier à faire les choses. Après celui-là, t'as la découverte de l'Amérique en profondeur, de ce côté.
Tu vois, c'était pas le premier à faire des western spaghetti, Léon, il y en avait déjà avant, mais juste les siens ont tout explosé parce qu'ils sont trop bien. Ah, c'est vrai, c'est tout. C'est juste que c'est comme tout, il y a des mecs qui faisaient des trucs avant et il y en a un qui a fait mieux que les autres et du coup, on se souvient quasiment que de lui. Mais ce film de Corbucci, Campaneros, suinte pas mal Léon quand même. Franchement, moi en le voyant, j'ai beaucoup pensé au Bon, la brute et le truand.
Ah ouais, mais c'est sûr.
Qui est sorti 4 ans avant. Déjà, bon, il y a le rapport à la musique qui est aussi faite par Ennio Morricone, forcément ça joue. Même si la musique, c'est presque plus pensé à Il était une fois dans l'Ouest par moment que le Bon, la brute et le truand. Enfin, c'était un peu mélange des deux dans ce que je ressentais. Mais surtout ce côté deux mecs qui se retrouvent dans une quête un peu what the fuck juste pour choper de l'argent parce que t'as que ça à foutre dans l'Ouest.
C'est ça.
Et il leur arrive 1500 péripéties. Sauf que là où le Bon, la brute et le truand, ça dure presque 3 heures. Là, ça dure 2 heures. Ce qui fait qu'il y a genre 150 péripéties qui s'enchaînent toutes les 5 secondes. Ah, ça ne s'arrête jamais. Du coup, c'est super cool. Mais alors, c'est tellement épuisant. Alors, moi, je trouve le film très sympa. Bon, pas extraordinaire, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Je suis très client des westerns de base. C'est un genre que j'aime beaucoup. Et en plus, ce que j'aime bien chez Corbucci, que le grand silence fait, mais en étant quand même beaucoup plus sombre, c'est qu'il y a un côté vraiment décomplexé, en fait. C'est qu'on dirait qu'il en a, mais strictement rien à foutre.
C'est ça.
Et la manière qu'il a de filmer ses personnages, mais c'est d'une coolitude. Ce mot n'existe pas, mais j'en s'en fous, parce qu'il lui s'en fout aussi, de toute façon. Et voilà, c'est quand il filme Franco Nero, qui déjà pue le charisme avec son costard là, de dandy un peu bizarre, là, avec sa petite moustache, et qu'il le filme avec juste ses pieds posés sur la table, qui s'ouvre et qui ferme comme ça, genre, le cadrage est fou.
Et la scène d'ouverture aussi.
Tout n'est que charisme.
Ouais, c'est ça. Vraiment,
je trouve ça absolument génial. Juste, bon, après, le film est très bordélique, c'est peut-être ce qui lui fait un peu défaut en même temps qu'il fait son charme, et qui peut déranger, du coup. Il se passe tellement de trucs que des fois, t'arrives même plus à suivre. Et que du coup, tout n'est pas filmé de manière très très clean. Il y a des fusillades, même Corbucci, il était perdu, mais sa fusillade, ça se voit. tu comprends plus rien. C'est très particulier. En même temps, je sais pas, il y a vraiment une espèce d'énergie folle comme ça qui pousse tout le temps vers l'avant et qui fait que c'est quand même. Même si je vois que c'est le cas de Thierry, c'est quand même difficile de s'ennuyer devant ce film. Juste peut-être vers la fin, tu commences un peu à fatiguer, mais c'est pas vraiment d'ennui.
Et je t'avoue que c'est le côté un peu enfantin qui a explosé pour tout ce trop-plein de tout. Et alors, Thierry, t'as pensé quoi?
J'aime bien comment on prête des propos à dire que je me suis ennuyé. Non, mais moi, en fait, le truc, c'est que ce soit les westerns classiques qui m'ennuient à mourir. D'ailleurs, Ellie est très triste de savoir que j'ai vu Rio Bravio la semaine dernière et qu'il sera pas dans mes recos.
Oh.
Ah ouais, non, je peux pas.
Je suis dépité, hein, faut le savoir. Hein. il m'a envoyé un message, il m'a fait bon Rio Bravo, moyen, j'ai fait oula, prenez ma température, hein, j'ai peut-être le coronavirus, là, faut le savoir. Hein.
Non, mais... Je l'ai déjà eu, normalement, je peux pas le rechoper, arrête tes conneries.
C'est terrible. Hein.
Mais ça. Et même les western spaghetti en général, même les Léon, je les ai à la maison, je les revois de temps en temps, je vais pas dire que je les apprécie pas, mais j'ai un détachement sur le western. Alors je pense que c'est ça qui joue plus qu'autre chose, plus que la qualité réelle du métrage. Du coup, j'ai regardé ça sans m'y attacher trop, sans forcément réussir à m'impliquer, en me disant que ça avait l'air d'être un gros foutoir, qui a l'air fun, mais qui arrive pas à m'embarquer, et du coup, c'est très frustrant, parce que je le regarde avec pas forcément une indifférence, mais un manque de volonté de m'impliquer. Pas forcément par manque de volonté, mais qui n'est pas volontaire. Contradiction. Mais en tout cas, voilà, une tristesse de me dire, putain, ça a l'air d'être un grand bal qui part dans tous les sens, excessivement coloré avec plein de choses, et pourtant, je suis pas dedans alors qu'il me tend la main depuis tout à l'heure. Donc il y a plus cette frustration là, donc du coup je suivais sans suivre, j'arrivais pas trop à capter qui étaient les personnages et leurs interactions et pourquoi. Et c'est dommage parce que même le côté même révolution mexicaine avec ces images de révolutionnaires, ça me parle, ça c'est des images politiques qui me parlent, mais je sais pas, il y a toujours ce côté dans le western qui me rend très réticent, même si dernièrement il y en a quand même beaucoup que j'aime. Donc là tu vois Marwan, c'est plus que te donner un avis sur le film, c'est très étrange, j'ai été vraiment très extérieur, donc du coup j'en ai pas tant que ça. Du coup mon intervention ne sert pas à grand chose.
Ça sert à nous faire savoir que tu n'aimes pas Rio Bravo et voilà, et que tu es quelqu'un de très méchant.
Attends, dis-toi que pendant très longtemps, le seul western que j'aimais bien, c'était Retour vers le futur 3. Maintenant, ça va, j'ai quand même pas mal révisé mon jugement.
Ah, c'est violent.
Je viens de vomir.
Ah, merde. Bon, moi,
c'est non, en plus, maintenant, je déconne, il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien. Hein, tu vois, vraiment, vraiment beaucoup. Mais ça, y a toujours une réticence, va comprendre. Et des fois, quand je les vois une seconde fois, ça passe beaucoup mieux. Peut-être que celui-là, ce sera le cas. Il y a ça ?
Eh bien, que dire ? J'adore les westerns, c'est
un... Ça commence bien.
Non, je vais... Non, vraiment, c'est... Vous allez voir. J'adore les westerns parce que c'est... Mais attendez, laissez-moi terminer.
Non. Vas-y.
C'est quelque chose que je regardais beaucoup étant enfant avec mon papa. Voilà, on se posait, on avait des petits rendez-vous western comme ça... Par contre, c'est des choses que je regardais en étant quand même assez jeune. J'ai arrêté vers les coups de 11-12 ans. Donc, j'en ai un souvenir assez lointain. Et du coup, d'en revoir un, là, comme ça, ça faisait des années que j'en ai pas vu. Et d'en revoir un, je pensais ne pas aimer. Et finalement, j'ai adoré. J'ai adoré. Oh. Et je pense que c'est beaucoup dû à la fois au style western spaghetti qui est présent, parce que voilà, ça fait remonter plein de choses, mais aussi grâce, je pense, au personnage de Yodalf, le Suédois, qui est d'un flegme absolument magistral. Ce gars est juste... Je pense que c'est vraiment lui qui m'a fait aimer toute l'histoire, en fait, parce que je dois avouer que j'ai trouvé les autres personnages un petit peu faiblards. Enfin, je me sentais pas vraiment investie dans leur combat, dans leur histoire, etc. Et c'est vraiment grâce aux Suédois que finalement j'ai pris plaisir à regarder le film. Ce gars est juste magistral, c'est incroyable. Par contre, ce que je pourrais reprocher au film réellement, c'est son montage. Surtout vers la fin, ça part dans tous les sens et ça m'a fait un petit peu mal aux yeux. J'étais contente hein, qu'il y ait de l'action, que ça tire de partout, etc. Que l'histoire trouve son dénouement. Par contre, faut pas être épileptique, hein, parce que faut fermer les yeux à ce moment-là. Mais en dehors de ça, moi, c'est les westerns, c'est un petit peu une partie de mon enfance qui m'est assez précieuse. Donc, je suis toujours contente d'en revoir ou d'en découvrir un, quel qu'il soit.
Je peux comprendre pour le montage en vrai. Après, ça m'a pas. Enfin... La fin, ça m'a pas tant choqué. Moi, c'est plus d'autres séquences où j'ai trouvé que c'était un peu... vraiment, il savait même plus comment filmer sa fusillade et que du coup, il cutait sur tout ce qui bougeait.
Attendez. Attends, Ellie. On a Craig qui vient de planter.
Ah, merde.
Attends, il y a un gros souci, là. Du coup, j'arrive pas à relancer Craig. Je sais pas comment... Craig, fils de pute. Je sais pas comment on fait. Merde, comment...
Now recording.
Là.
Now recording. Du coup, Ellie, on était sur... ton argumentaire que tu vas reprendre, même si ta piste perso a aidé, mais on va quand même faire les choses bien.
En fait, Thierry, c'est toi qui disais que ça t'intéressait beaucoup le fond sur la révolution mexicaine, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il essaie de parler de ça, mais alors, bon, le problème, c'est que c'est un peu foutoir, donc même son propos sur ça, je comprenais, mais des fois, je connais pas assez la période de base en même temps, mais tu sais pas trop ce qu'il veut raconter non plus, je trouve, et en même temps, j'ai l'impression qu'il essaie de s'en servir pour une double lecture sur, peut-être une situation politique qui lui était plus contemporaine, parce que comme je disais, le personnage de... Enfin, le deuxième cow-boy, on va dire, ressemble énormément à Che Guevara, je trouve.
C'est ça, bah oui.
Oui,
clairement. Ils mettent même un petit truc sur le béret pour que ça fasse exactement comme, comme sur les photos qu'on connaît.
El Vasco.
Voilà, El Vasco. Et c'est vraiment de jouer sur cette... je pense qu'il y a un double propos, à mon avis, hein,
oui.
qui est voulu avec cette idée de révolution pacifiste, mais qui en plus n'aboutit pas vraiment, etc.
C'est ça.
Enfin, c'est très intéressant, il essaie vraiment, je pense, de parler de plein de choses, et c'est peut-être aussi ça le problème, c'est que du coup, c'est un film qui est presque trop ambitieux par rapport à tout ce qu'il veut faire, en fait. Et c'est un peu, ça pourrait presque lui desservir, parce que du coup, c'est vraiment très dense, et en deux heures, bah, peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas, un peu plus de temps pour laisser souffler, pour laisser vraiment ses propos se développer, plutôt que de tout enchaîner comme ça, vitesse grand V, et ça rendrait le film peut-être plus appréciable... dans son ensemble, je pense, hein, c'est un avis personnel, j'ai déjà trouvé ça très sympathique, mais là, je pense qu'en fait, au final, le film se résume presque plus à, on prend un autre pied devant un mec qui, enfin, devant des fusillades qui s'enchaînent, des trucs improbables, des traversées de frontières avec des déguisements en moine improvisés, enfin, on sait même pas comment ils ont trouvé les costumes, mais bon, voilà.
C'est ce que je me suis demandé.
Il y a plein de trucs comme ça, enfin, il y a des trucs qui sortent de nulle part, mais ça va tellement vite qu'on comprend même pas tout ce qui se passe. Mais voilà, c'est à la fois très, très sympathique, mais tu sens qu'il y a un truc en fond qui, du coup, a peut-être du mal à s'exprimer. Et c'est peut-être un peu dommage, je pense.
Ouais. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est que... Mais c'est con, mais c'est quand même avec Princess Bride, c'est qu'il y avait tellement de moments où je me suis dit, mais comment c'est possible, qu'en réalité, enfin, j'ai pas trop réfléchi longtemps dans cette idée-là, tu vois. Et c'était vraiment ça, le truc. La suspension de la crédibilité, ouais.
Mais clairement, il faut se laisser porter par l'histoire si... C'est fait pour, tu vois.
Ah, tu n'as pas le choix, tu étais pris dans cette espèce d'élan à la fois d'avidité et en même temps de violence, parce que Corbucci, c'est quand même giga violent. Enfin, dès le début, ça ne trompe pas, quoi. Il va, ça tabasse, il y a des meurtres à tout va, c'est super frontal, il s'en fout. Et voilà. Mais par contre, il y a des trucs super intéressants, comme le personnage. Il y a un personnage féminin qui, dans un western, est intéressant quand même. Franchement, c'est souvent on dit que les femmes dans les westerns étaient souvent un peu mises de côté ou souvent victimisées. Là, c'est pas tout le temps super jojo ce qui lui arrive, enfin, la manière dont elle est traitée. Elle est quand même intéressante. C'est une femme qui prend les armes, qui dirige, qui fait de la régence d'un parti politique, etc. Et qui a pas froid aux yeux. Et moi, je trouve ça intéressant. Et la galerie de personnages est plutôt cool. Et oui, et je crois que je me souviens de ce que je voulais dire à la base sur le personnage du Suédois que Yasa adore et que je trouve très cool aussi. C'est que c'est marrant que tu dises que tu trouves les autres personnes un peu moins intéressantes ou développées, alors que l'acteur Franco Nero, lui, a trouvé que justement son personnage n'était pas assez développé par rapport à celui de Vasco.
Ah ouais?
Et que du coup, il a arrêté de collaborer après avec Corbucci, alors que c'est avec lui qu'il avait fait Django déjà, etc. Ce qui est drôle, c'est qu'au final, tu peux aussi rapprocher ça du Bon, la brute et le truand, où il s'est passé exactement la même chose avec Eastwood, qui a dit à Léon qu'il trouvait que le personnage de Tuco et d'Eli Wallach était beaucoup plus intéressant dans le film et beaucoup plus développé que le sien. Et que du coup, ils sont engueulés aussi. C'est vraiment particulier. Enfin, les deux films se rejoignent beaucoup, je trouve.
C'est paradoxal que l'acteur pense ça, parce que moi, ce que j'ai retenu du film, c'est que pour El Vasco, c'est que physiquement, c'est vrai qu'on voit la similitude avec le Che. Et en fait, il n'a pas un sou de charisme, son personnage. C'est-à-dire que c'est complètement dissonant avec ce qu'il est censé représenter.
Oui, bah oui.
C'est plus un petit peu un imbécile heureux qui se laisse porter par les plus puissants que lui et qui a la botte, qui décide plus ou moins de suivre un petit peu le plus fort, quoi. Donc, en vrai, il se laisse plus embarquer dans cette histoire de révolution parce qu'il est au milieu que parce qu'il a réellement décidé.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est lui, au final, dans les personnages, qui a une vraie évolution. C'est peut-être pour ça aussi qu'il disait ça. C'est que c'est le seul personnage vraiment qui part d'un point A et qui a un point B. De base, c'est juste un vagabond qui se retrouve emmêlé dans un truc et qui est juste attiré par la violence et l'argent et qui, au final, va prendre conscience de l'importance d'un combat, etc. Et il va essayer de se battre pour ça et il va mettre ça avant l'intérêt pécunier. Ce qui se voit, enfin, ce qui amène justement toute la fin avec le duel final, etc. Où justement, il a vraiment complètement changé par rapport à ce qu'il était au début dans ses motivations. Mm. Et même dans la manière qu'il a d'agir vis-à-vis du personnage féminin, notamment.
Mm.
Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pu avoir ce conflit. Et moi, je pense que c'est aussi le personnage le plus écrit à ce niveau-là. Parce que finalement, le personnage du dandy, en fait, c'est un peu comme l'homme sans nom de la trilogie du dollar de Léon. C'est le mec flegmatique, giga cool, très mystérieux. On n'en sait jamais plus à la fin du film. Mais juste, il traverse le film et c'est un peu notre point d'accroche de base, en fait. C'est un peu celui qui nous guide, et après, il y a tous les autres personnages qui gravitent autour et qui sont généralement plus... Enfin, c'est la vie de l'Ouest à côté, en fait, qui se passe autour de ce mec-là. La vie de ce qui se passe. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, et que ce film arrive plutôt bien à faire, même si, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de choses, et que c'est très bourratif, mais voilà.
Et par rapport à ce personnage-là, je trouve aussi que... Il est aussi intéressant, enfin celui qui se prenait pour le Che, c'est parce qu'en fait, il est inspiré d'un personnage qui est également dans le centre de l'histoire de Viva Zapata de Yakazan, qui est ce même personnage qui vient du peuple et qui, d'un coup, quelqu'un l'aide, un des généraux va lui donner, va lui dire, viens bosser avec nous, et lui, il va devenir une sorte d'image, et c'est ce côté-là, c'est le mec qui vient du peuple, c'est vraiment aussi, je pense, un archétype qui, finalement, par rapport à tout ce Mexique-là, tous ces films qui a western de cette époque-là, on retrouve énormément, c'est ce personnage-là du peuple qui va, pour le peuple, l'aider, mais qui, finalement, va être corrompu par son déterminisme avec ce qu'il n'a pas pu faire par rapport au fait qu'il ne pensait pas aller aussi loin. Et on retrouve ça dans ce personnage-là, et c'est pour ça qu'il est aussi bien écrit, je pense, c'est que il y a ce côté un peu... C'est des archétypes, comme Kamuchi fonctionne très bien avec les archétypes, et il en fait, pour moi, c'est vraiment des jouets, puis il en fait ce qu'il veut, et puis on s'en amuse, quoi.
On reste quand même d'accord pour dire que ça peut être potentiellement fun à regarder.
Ah oui.
C'était le but à la base. Dans le thème que tu proposais à la base, c'est ce que je voulais, c'était le film un peu qu'on peut voir entre potes, qui titille l'enfance. Quand tu disais ça, c'est moi, c'était vraiment ça. C'est un film que je verrais avec des potes avec grand plaisir, parce que c'est quand même pas mal rigolo. Et en même temps, c'est un côté, je trouve, qui joue avec l'enfance. Vraiment, ce côté, ce plaisir illimité, ce côté où on n'a pas l'impression... Enfin, c'est ça, c'est le trop-plein de l'enfance, quoi. Quand on imaginait des histoires étant enfant, t'avais ce côté-là, t'avais ce côté où il y avait 30 000 retournements de situation, t'avais 30 000 personnages qui apparaissaient, toujours un qui était plus fort que l'autre, c'était ça, constamment, t'avais toujours ce jeu. Sauf que là, il y a un petit jeu en jeu, on va dire, politique, mais outre ça, c'est vraiment que ça, c'est vraiment une sorte d'imaginaire enfantin qui s'amuse, quoi.
Bah en fait, on dirait un cartoon, c'est tellement grotesque.
C'est ça.
On dirait genre Bugs Bunny et Daffy Duck dans le Far West qui font n'importe quoi et qui se tirent dessus avec des trucs improbables. Genre, quand ils sortent les machine guns, mais ça n'a aucun sens. Enfin, le mec s'amuse, il la soulève comme ça, comme si c'était un petit pistolet, et il allume tout le monde, et t'as tout le monde qui tombe comme des mouches, et il est trop heureux. C'est grotesque.
C'est trop bien.
C'est cool, et en même temps, il arrive en même temps à critiquer ça dans la même minute. En plus, c'est qu'intelligent, c'est que... À travers son montage, la chanson de la musique, etc., en une demi-seconde, il passe de c'est génial, tu te tapes des barres à voir un mec qui canarde tout le monde, c'est toujours kiffant à voir, de toute façon. et dans la demi-seconde qui suit, il te montre juste les corps en train de s'effondrer petit à petit, et tu te dis, putain, en vrai, c'est chaud quand même. Enfin, il tue beaucoup de personnes, là. Et c'est super intelligent là-dessus, et je suis d'accord, enfin, je vois ce que tu veux dire pour rapport à l'enfance, et c'est vrai que ça marche très très bien. Je pense que même enfant, tu rigoles.
C'est ça. Et en plus, tu te rends compte que c'est pas des balles, quoi, ils tombent, tu vois, et c'est ça qui est encore plus drôle. Quand tu les vois tomber, alors qu'il y a rien, il y a pas de fumée, il y a que dalle, tu te rends compte qu'il y a pas eu de tir. Enfin, tu sais que c'est des gens qui font exprès de tomber, c'est filmé sans forcément vouloir le cacher. C'est vraiment drôle.
Puis même, enfin, dans le déroulement des péripéties, c'est très très enfant. C'est tellement con comment ils s'en sortent à chaque fois que c'est très. On dirait vraiment des trucs de gosse. Enfin, il y a quand même, ils font référence au petit poussé.
C'est ça.
Un moment avec les tortues qui deviennent les.
Ah oui.
Non mais toute l'attaque de Fort Yuma avec le truc des pompiers, mais c'est tellement mais alambiqué à mort.
Et les méchants avec le faucon, tu vois, c'est trop drôle.
Alambiqué, un gros bordel, un film qui plaira aux petits, qui plaira aussi aux grands, qui visiblement a plu beaucoup à l'équipe malgré certaines réticences. Et il est temps de passer au dernier film, un film qui visiblement a fait polémique, qui a fait quelques petits envieux, quelques petits jaloux aussi. Et surtout beaucoup de déboires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement dans Clac, on a quand même l'habitude, on l'avait vu les précédentes semaines, de beaucoup inviter de gens sur nos épisodes au show. Sur cet épisode, on avait décidé de faire un épisode fleuve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On a invité masse de personnes. Le problème, c'est que malheureusement, dans ma volonté de s'éclater sur cet épisode, j'ai proposé un film qui, a priori, a fait un gros débat et qui fait que nos invités ont décidé de partir et de ne plus revenir. Alors, on les a tous perdus, on sait pas où ils sont, même Thomas, d'ailleurs, on se demande s'il est pas réellement parti pour ça. Et on a reçu un documentaire qui visiblement nous dit où ils sont, et je vous laisse écouter ça tout de suite. Aujourd'hui, dans Clac Investigation, scandale et hérésie. Le dénommé Thierry, pourtant membre influent du collectif de podcasteurs cinéma Certains l'aiment à chaud, a proposé pour l'épisode du 6 juin 2020 un film qui va changer à jamais le destin de l'émission. Alors censé comporter de nombreux invités, le visionnage du film va générer des disparitions multiples parmi les invités. Nous sommes le 17 mai 2020. Après une émission réussie sur la Cinéthèque, Thierry propose en privé à ses amis Liam et Quentin de participer à un prochain épisode quelques semaines plus tard. Il leur donne alors le thème de l'épisode ainsi qu'un film à regarder. Quelques jours après, les deux jeunes hommes ne sont plus actifs sur les réseaux. Nous avons alors commencé une enquête, et après de longues recherches, avons retrouvé Liam de Bruel, que nous reconnaissons à peine.
Je pense que comme tout le monde, je n'étais pas prêt devant ce film. Je crois que je n'étais pas prêt. Je pensais avoir atteint la limite et Catwoman, ou les nouvelles aventures d'Aladin, mais les Feebles. Voilà, je suis parti en Estonie maintenant. Je vis une vie tranquille, loin du cinéma, où je fais de la calligraphie pieds nus. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie et qui permet d'oublier toutes ces choses que j'aurais voulu ne jamais voir.
Devant un tel traumatisme, l'équipe de Claque Investigation s'interroge. Est-il possible que Liam ait fait un burn-out? Pour le découvrir, nous sommes partis à la recherche de Quentin Corré et nous sommes heurtés à de nouveaux dilemmes. En effet, son site, à la rencontre du 7e art, ayant disparu, difficile d'entrer en contact avec lui. Nous avons fini par être appelés par l'hôpital psychiatrique du Touquet, dans lequel Quentin est interné depuis le 20 mai 2020, nous indiquant qu'il a accepté de s'entretenir avec nous et de nous expliquer sa déconvenue.
Vous savez, pour moi, Peter Jackson, c'était le Seigneur des Anneaux, les batailles, les chevaliers, la fantaisie, ça me passionnait. Et puis un jour, j'ai décidé de voir les Fibbles. Et là, tout s'est effondré. Je crois que j'étais pas prêt. Est-ce que vous pouvez couper, s'il vous plaît ?
Peter Jackson, les Fibbles. Dans les paroles désarçonnées des victimes, ces deux noms résonnent. Et c'est en cherchant de quelle œuvre il pouvait s'agir que nous nous heurtons à une nouvelle réalité. Ce film a déjà été proposé par Thierry et a déjà fait des ravages. Nous sommes le 29 avril 2020, et alors que l'enregistrement de l'épisode sur e-cinéma s'apprête à commencer, Hera Lascri, pourtant membre essentiel du collectif, envoie ce message. Hello, j'ai pas la forme, je ne pense pas participer ce soir, désolé. C'est la dernière fois que les membres de certains Lamachos entendront parler d'elle. Si elle s'est premièrement refusée à répondre à nos questions, Hera a fini par nous expliquer les raisons de son départ prématuré.
Après un film d'une telle débilité, j'ai dû partir et quitter Claque et aller m'isoler dans un autre pays pour ne plus jamais, jamais entendre parler des Fibbles. J'étais à la fois très traumatisé et en même temps, j'ai atteint un niveau de stupidité tellement énorme qu'il a fallu que je m'isole encore pendant 2 mois pour aller lire Proust et me remettre un petit peu à niveau du type de film que d'habitude je regarde. Non, là, c'était beaucoup trop pour moi. C'était un peu compliqué à appréhender parce que même en ayant grandi avec le Muppet Show ou ce genre de choses-là, là, ça atteignait des niveaux de stupidité tels que maintenant, je ne peux plus voir une peluche. C'est impossible que j'observe une marionnette sans me trouver tout de suite extrêmement conne. Non, non, c'est d'un niveau de débilité tel que c'était plus possible pour moi de continuer de voir des films. J'ai arrêté le cinéma.
Mais qu'est-ce que les Fibbles ? Pourquoi ce film a traumatisé ces personnes qui ont décidé de laisser de côté leur passion ? Alors que l'équipe de Claque s'apprête à en parler, nous avons réussi à trouver un morceau de bande-annonce.
So, you want to join the Feebles?
Oh, rather!
Meet the Feebles! Meet the Feebles!
Meet the Feebles. The movie that began as family entertainment, but went horribly wrong.
Have you got any smack?
Smack?
The authorities tried to stop.
Oh, what beautiful white fur. God, my dear.
The story that rocked the puppet world.
This is a family show, for Christ's sake.
Sex.
I'm hot, Bletch. But not the way you think.
Meet the Feebles de Peter Jackson.
Oh là là.
Peter Jackson, on le connaît pour sa trilogie du Seigneur des Anneaux, on le connaît pour son hallucinant King Kong, ce côté épique, classieux, qui touche constamment au sublime avec de beaux dialogues, de beaux personnages, de la noblesse, de la hauteur, beaucoup, beaucoup de hauteur, beaucoup de finesse pour un cinéma qui touche justement au chef-d'œuvre. Pourtant, dans les terres reculées de Nouvelle-Zélande, quand la folie des grandeurs était réduite à la folie tout court, Peter Jackson, c'est aussi Braindead, c'est Bad Test, c'est ce cinéma crasseux, ce cinéma sans limite. Et Meet the Feebles, c'est le croisement entre le Muppet Show et un Gonzo dégueulasse, ou les coulisses d'un show télévisé qui nous montre toutes les dérives. Bon, alors du coup, c'est moi qui ai choisi ce film. Pourquoi j'ai choisi ce film ? Alors tout à l'heure, vous disiez justement que bah, Marwan t'a lancé tout à l'heure que c'était pas un film qu'on regardait quand on était petit. Bah moi je l'ai vu petit.
Oh, ça explique beaucoup de choses.
Et je me suis rappelé d'un truc, c'est que le traumatisme qu'il m'a causé quand j'étais petit, je pouvais tout à fait vous le causer à votre âge.
Ses parents n'ont plus acheté de doudou après, hein, faut le savoir. Hein.
Mais de quoi ça parle, Meet the Feebles? Ça parle donc d'une troupe de musical. Les Feebles, c'est très calqué sur le Muppet Show, qui est dans une dernière journée de répétition, avant une représentation. Donc du coup, c'est filmé par une chaîne de télévision, donc on va nous montrer les coulisses de la chaîne, on va nous montrer les coulisses de cette troupe de répétition, et surtout, on va nous montrer que dans le show business et dans les petites troupes, en réalité, les gens, ils sont pas gentils. Il y a de l'adultère, il y a de la cam, il y a des paparazzi, enfin, il y a un paparazzi, il y a des vilaines MST, il y a des gens qui règlent leur compte, il y a des gens qui chopent des maladies dégueulasses et qui savent pas trop comment en parler, il y a d'absolument tout. C'est dégueulasse, les Feebles, non? Il y a ça, est-ce que tu veux en parler?
Directement pour ça, toi.
C'est... Franchement, écoute, je ne saurais pas dire si mon admiration pour Peter Jackson s'en est retrouvée augmentée ou diminuée, parce que c'est un film très, très, très paradoxal, en fait. Il est bon, il est très bon. On est happé dans l'histoire, on est pris. C'est des histoires de drama, du showbiz. Ça attire toujours l'œil. Et à la fois, c'est d'un crade. J'ai jamais vu autant de fluide de ma vie. Mais ça gicle de partout. C'est incroyable. Les personnages, tous les personnages, même ceux qui sont potentiellement plus ou moins gentils, entre guillemets, ont des défauts aussi qui sont extrêmement prononcés. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les dérives. C'est fou, quoi. Et j'arrêtais pas de m'indigner comme une midinette. Mais à la fois, j'étais absolument fascinée par ce qui se déroulait devant mes yeux. C'était franchement, je ne sais toujours pas comment qualifier ce film, mais je suis vraiment contente de l'avoir vu. je découvre une autre facette de Peter Jackson, là.
Alors, quand tu regardes le nom des personnages, tu vois, par exemple, sur la page Wikipédia du film, tu vois, tu pourrais limite chanter la ferme d'Oldelaf. Tu vois, en disant que c'est souvenir, il y a Sébastien, le renard, Arthur, le ver de terre, Harry, le lapin, Sydney, l'éléphant. Et puis après, tu commences à regarder les descriptifs. Et là, t'as envie de demander, alors Marwan, tu préfères qui? Harry, le lapin, monsieur loyal par 12 heures? Winard, la grenouille, vétéran du Vietnam toxicomane? Denis, le sniffeur de culottes et Arthur pornographique? C'est quand même des personnages magnifiques, non?
Moi, je préfère le petit hérisson, ouais. C'est celui qui vient d'arriver tout, qui tombe amoureux directement.
Robert, ouais.
Robert. Après, je trouve que c'est vraiment merveilleux, cette irrévérence, et qui en réalité est une magnifique critique du parler par le revers des Muppets, de ce côté où en réalité, ces gens-là qui font des trucs pour les gamins, c'est probablement les plus gros crados que la Terre ait porté, et c'est merveilleux. Et en fait, non, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est pour, comme Companieros, t'as ce trop-plein, de rire trop plein, mais constant. Ça voudrait dire que finalement, les films qui ont un rapport avec notre enfance, ont un rapport avec notre, avec le côté de notre pote, on a, ça a un vecteur commun, c'est ce trop plein, ce trop plein qui finalement est nécessaire, mais qui est abusé. Ah, mais je te jure, gamin, j'ai pensé en plus, hein. Et gamin, tu m'aurais pas retrouvé, hein. Gamin. En plus, un truc à savoir, c'est que vous m'avez envoyé le lien, mais je l'ai pas téléchargé à temps. Donc j'ai regardé en français, et en français c'est vraiment merveilleux aussi, t'as des répliques mais sont extraordinaires, je jure la VF je pense qu'elle vaut autant le coup que la VO, parce que les mecs qui ont doublé sont autant impliqués, et puis t'as des phrases, je sais pas noter, mais t'as des répliques du genre, lorsque le mec est prêt est prêt à se faire surprendre en train de se faire sa...
Oui, oui.
Littéralement, le petit animal. Parce qu'ils ont pas trouvé mieux que de mettre ça comme animal pour justement illustrer.
Je suis parti, c'est pas
l'adultère.
Donc, excusez-moi. Mais ce que je disais, c'est vraiment ça, c'est ce côté où directement ils te parlent crûment avec des personnages qui auraient pu être des personnages pour enfants, quoi. Et ça a été une sorte de plaisir, mais en même temps, ouais, de trop plein à chaque fois. C'était un entre-deux.
Et surtout, tu te dis que si jamais ils l'avaient fait de manière sérieuse, ça aurait clairement été quelque chose qui aurait pu instiguer une affaire Weinstein, mais 20 ans avant, quoi. Parce que ça charge à bloc, ça parle de tout, alors ça s'en moque aussi, et ça parodie beaucoup de choses, et tout n'est pas aussi dark que ce qu'on voit. Mais il y a quand même un côté, justement, reflet d'une société qui est quand même assez dégueulasse, et qu'on retrouve même aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup de choses qui veulent dénoncer tout ça.
Totalement ça.
Ça fait déjà très années 90 avant l'heure, quoi, en fait. Dans l'idée, okay, ce que ça dénonce, que les années 80, c'était encore les années un peu merveilleux, bah, avec des films comme Princess Bride, et les années 90, beaucoup plus sombres. Et là, on est en 89, okay, et ça annonce presque déjà tout ce qu'on va voir après, avec des films, bah, l'émergence de cinéastes comme Tarantino, etc., oui, qui sont exactement dans cette veine-là, quoi. Des mecs qui en font beaucoup, qui partent en freestyle, et c'est, ça regorge de trash, de gore, de liquide, de flux, de ce que tu veux. Et c'est cool.
C'est vrai, je suis totalement d'accord.
Bordel.
Ah.
Bon, c'est pas. Des fois, c'est peut-être un peu lourd, mais globalement, c'est quand même vachement cool, moi, je trouve, les films.
En parlant de choses un peu lourdes, il y a Thomas qui vient d'arriver dans la conversation.
Vous avez fini de faire des misères à Craig, là ? Qu'est-ce que vous avez fait, ce pauvre Craig ?
Mais il a bugué.
Il y a une otarie qui l'a prise sur un bureau, mais c'est...
il va bien, il va bien. C'est un morse, Ellie, c'est un morse.
Pareil.
Je reçois des messages d'alerte sur mon téléphone, Craig en PLS, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous lui faites à ce pauvre nounours ?
Oh, t'inquiète pas si c'était le seul truc qui était bordélique dans cette émission.
Oh là là.
Ah, voilà, bon, ça y est, Thomas, ça va mieux ? T'es remis de ton traumatisme ?
C'est terrible. Je retourne voir ma famille. La famille.
Ressource-toi, ouais, reviens-nous bien. Fort.
Bon, attention, je surveille de très loin. Je ne suis jamais très loin.
On est à 4 heures d'épisode, Thomas. Tout va bien. T'inquiète pas.
Bon, mais c'est bien, Thierry. Tu vas te former au montage cette semaine.
Je suis à 36 recos. Hein.
Ah, ça va. Petite forme cette semaine.
Ouais, je... Un peu fatigué.
Tu te gardes pour Carlotta.
Et voilà, exactement.
C'était donc bien Bloodshot, le traumatisme de Thomas. Vous voyez, on avait raison du coup. Maintenant, ça y est, il m'a déjà envoyé 60 photos de bouteilles de Corona différentes pendant l'émission. C'est impossible. Qu'est-ce
il s'est même rasé les cheveux.
Écoutez, une au citron, là, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Oui, et d'ailleurs, je descends chez moi en voiture tunée aussi. Voilà.
Ah oui, attends, si t'as pas des petits néons...
C'est ça. Et avec des fumigènes rouges, évidemment, un hommage à Bloodshot.
Ah putain, ça va finir en drift, ça.
voilà. Et les yeux fermés, un hommage à Riddick. Voilà, c'est...
Cet épisode ne va ressembler à rien. En plus, le moment où t'es arrivé est tellement idyllique.
Et en plus... Et je vais faire une escale au Cap d'Agde pour faire un hommage à Triple X. Voilà.
Ah bah tiens, d'ailleurs, en parlant du Cap d'Agde, Thomas, sache que nous parlons actuellement justement de Lucille Lacaniche qui aime bien aller au Cap d'Agde elle aussi.
Ah oui, très bien. Mais c'est forcément quelqu'un de très bien alors.
Ah bah, si tu savais. Et on l'embrasse.
Je suis pas sûr que j'ai envie d'embrasser Lucille Lacaniche vu tout ce qu'on a vu dans ce film.
Je vous laisse à vos bêtises.
Oui, tu non, le découvriras si les... bien assez tôt.
Voilà, s'il y a trop de bêtises, Thierry, tu te démerdes, tu montes ton truc propre, hein, voilà.
Non, pardon, t'inquiète pas, tu vas recevoir ça. Le chaos. Allez.
Le chaos. Allez, bisous, bisous.
Bonne fin d'émission.
Bye,
ciao. À la prochaine.
Ah mais merde, du coup, mon accent du sud, tout le monde a capté que c'était pas Thomas.
Ah là, terrible. C'est la supercherie qui prend là.
Alors que je m'apprêtais à faire le cigale pour rentrer dans le rôle. Ah bah non, mais je sais juste faire les mouettes, c'est vrai. Bref. On était en train de parler du coup de Meet the Feebles. Et Meet the Feebles, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a quand même une vie assez étrange. Et pour la petite anecdote, qui nous a bien fait rire quand on en a discuté entre nous, c'est que moi du coup, je possède une copie du film. Une copie du film que j'ai acheté aux États-Unis, que je me suis fait importer, qui m'a coûté la peau de certains organes des génitaux que nous ne citerons pas parce que on est quand même très polis, on ne regarde pas des films vulgaires ici.
C'est tout vrai, à fait. Ouais.
Et plus les frais de port qui coûtaient quasiment le même prix. Donc une bonne petite triple journée de travail à peu près en termes de tarifs pour finalement me retrouver avec une version dégueulasse et que Yassa nous avoue que la seule version considérée comme bonne à ce jour est une version faite par un fan allemand.
Ouais. Voilà.
Voilà, donc les versions remasterisées de ces films ne sont même pas faites par Peter Jackson lui-même, mais par des fans allemands.
Quand j'ai lancé le film, j'avais un doublage allemand et je te cache pas que c'était très particulier, mais presque aussi cool que,
mais oui,
que la version originale.
Mais carrément.
C'est pour ça qu'il faut.
Bon, alors du coup, on a perdu le film, il faut qu'on reparte.
Ouais, il s'est passé beaucoup de
Ellie, t'as pas dit grand chose sur le film pour l'instant.
Non, en vrai, c'est. Moi, du coup, je connaissais le film de nom depuis un petit moment quand même, et puis c'est un film qui est pas forcément. Enfin, qui est pas facile à voir, on va dire, il est pas très très accessible, comme tu disais, il y a des problèmes avec les éditions, enfin, En France, c'est quasi un cauchemar pour l'avoir. On est obligé de passer par des voies un peu plus obscures, malheureusement. Mais du coup, j'avais jamais pris le temps de le regarder. Et ça m'a pas déçu de ce que je m'étais imaginé que ça serait, en fait. C'est très complètement barré. C'est une orgie constante pendant une heure et demie. Ça ne s'arrête jamais. C'est complètement meilleur. Mais vraiment, mais je sais même pas ce qu'avait Peter Jackson dans... il avait pris comme substance avant de faire ce truc, mais il était complètement en roue libre, hein. Ça se voit. Mais non, c'est super intéressant, parce qu'au final, ça casse un peu l'image du show business, du coup, que les Muppets avaient à l'époque, comme tu disais en introduction, ça reprend complètement...
Ah non, ça casse peut-être l'image des Muppets, oui. Mais ça renforce l'image du showbiz qu'on se fait, quoi.
Oui, mais ça casse le glamour, quoi. C'est le glamour qui entoure le show business, parce que là, en fait, au final, on voit aucunement du glamour. Le show, il dure littéralement 4 minutes, je crois, à la fin. Alors, 5 minutes. Mais il comporte la meilleure musique de l'histoire de l'humanité, il faut le savoir. elle ne concerne absolument pas une pratique sexuelle.
Elle concerne 3 notes de musique, hein, qui sont mi, do et sol, et pas forcément dans cet ordre.
Exactement. Et c'est très, très poétique, très fleuri. Et voilà, j'ai passé un plutôt bon moment, je dois le dire. C'est très, très appréciable, surtout moi j'aime bien ce genre de délire là de base. Donc quand on me donne ça version x 1000 avec genre de l'humour très très cynique, très très noir, où le 3/4 des personnages passent plus de temps à parler de viol, d'argent, mais sale et tout ça, ça me fait marrer. Bon, après, des trucs, je trouve, des fois, c'est peut-être un peu too much, et voilà, mais globalement, ça se tient plutôt bien, et même la mise en scène est plutôt rigolo. Enfin, c'est plutôt intéressant. Peter Jackson, il s'amuse vraiment avec ses petites marionnettes, qui sont d'ailleurs très bien faites, faut le dire. En fait, on sent que c'est un film fait avec du plaisir, genre de l'envie, à la fois de parler de quelque chose qui tient à cœur, et en même temps de s'éclater avec tout ce qu'il a à sa disposition. C'est un joyeux bordel d'une heure et demie, Moi, je dis oui tous les jours, en fait. Pour ça.
Déjà.
Mais, Ellie, tu parlais de too much. Et je pense que c'est constamment dans la surenchère, mais c'est tellement énorme. Toutes les dérives, tous les travers humains qu'on pouvait réunir sont réunis dans ce film. Et en fait, ça maintient une cohérence dans le comportement des personnages, qui sont zoomorphiques, du coup.
Oui, mais complètement.
Ça augmente, mais pour moi, en fait, ça a jamais fait too much,
C'est dans l'humour, le fait que des fois, ça allait tellement loin que ça me faisait même plus spécialement rire, tu vois. C'est juste... c'est de la surenchère qui, des fois...
Parfois, c'est graveleux, hein. T'as pas envie de rire, quoi. rire tellement c'est glauque.
Bien sûr, mais même des fois, certaines blagues, je me faisais pas rire parce que ça rentrait. C'était presque trop gratuit ce qu'ils voulaient raconter. Mais après, dans l'ensemble, j'étais vraiment hilar quasi du début à la fin. Enfin, franchement, juste de voir deux marionnettes en train de se. Je sais pas comment finir cette phrase parce que ça va forcément être vulgaire. Mais en train de se faire des jolis câlins sur une belle musique de fond. Ça touche mon petit cœur, c'est très très beau, c'est voilà, des histoires d'amour comme on rêverait d'en vivre plusieurs dans une vie. J'ai envie d'acheter des doudous maintenant.
Ça me rassure pas, ça.
Non, mais c'est un film qu'on regarde avec un petit chocolat chaud, des peluches, en se tenant plus par la main et un plaid, et en se faisant des gros bisous à chaque fois qu'on voit une scène d'amour, parce qu'elles sont magnifiques. Et il y a des gens qui s'aiment dans ce film, il y a quand même des gens qui ressentent du plaisir, qui vont au fond de leurs émotions. Je veux dire, il y a quand même Harry le lapin qui justement paye pour son parcours de partouzeur en chopant une énorme MST qui le rend mais pustuleux, dégueulasse. Et du coup, à partir de là, on voit quand même du coup la manière dont le showbiz va essayer de l'évincer, parce qu'on peut plus montrer ce mec-là, c'est dégueulasse, et lui qui veut avoir son chant du cygne une dernière fois sur scène. Non, il y a des passages touchants quand même au final.
Ah non, mais c'est super, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, il arrive à vraiment créer un univers, mais qui est super complet. Il arrive à se passer vraiment plein de choses, et tout tient plutôt debout, je trouve. Et en fait, c'est un film que je pense, c'est vraiment un film où ça passe sa casse. Et soit on arrive à rentrer dans l'humour assez radical, et du coup, si c'est un truc qui touche, ça passe tout seul, globalement. Et on apprécie autant la forme de l'humour que le fond, qui est quand même assez intéressant, avec toutes ces espèces de critiques, ce que ça raconte sur le show business, etc. Et voilà, il y a des belles histoires d'amour, comme on les a citées. Et à côté, par contre, si on n'est pas très très humour noir, graveleux, tout ça. Je pense que c'est un calvaire, mais d'une force. Je pense que la passion de Jésus à côté, mais c'est une promenade de santé. c'est au bord de la Méditerranée un 15 août, tu vois, c'est terrible.
Mais je trouve quand même que malgré tous leurs défauts, les personnages restent attachants parce qu'on sent qu'il y a une motivation, tu vois, qu'ils sont tous motivés par l'amour de quelque chose, en fait. Il y a l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la reconnaissance sur scène, voilà, l'amour des culottes, enfin, l'amour des commérages, vous voyez. On arrive à comprendre, enfin, pour ma part, je suis arrivée à comprendre qu'ils en arrivent là, en fait. C'est à la fois, ça fait partie de la faiblesse humaine de succomber à ce genre de vice, et à la fois, on sent que ils n'y peuvent rien, quoi. C'est, voilà, ils aiment les choses qu'ils aiment, et ce qui les rend d'autant plus attachants, justement, pour nous, même si ce sont des marionnettes.
Je suis très d'accord, j'avais beaucoup d'empathie pour le rat, moi, surtout, très très attachant, personnage vraiment avec des grandes valeurs. Il y a un amour profond pour le sexe et le sadomasochisme qui, voilà, beaucoup d'empathie, on s'y retrouve beaucoup, je pense.
Si on enchaîne les arguments réels avec les arguments cyniques, on va pas y arriver. Bon, vous l'aurez compris, Meet the Feebles, c'est de la cam. Alors, si vous avez jamais pris de drogue de votre vie, prenez-en peut-être avant, parce que quoi qu'il arrive, vous aurez une sacrée impression. Eh ben, on va se laisser là-dessus. C'est plutôt sympa. Alors, on va faire des recos, mais on va les faire très rapidement. Parce que là, vu qu'on a quand même une pause, on doit être à peu près à 1h20 en réalité. Surtout avec quand ça va couper au niveau du montage. Donc, on peut se permettre de faire ça, mais on va les faire vraiment en 10 minutes top chrono. Vous connaissez le principe, comme toujours. Deux recos. Alors, pas une sur la plateforme, pas une hors, mais deux recos max. On est bref, on y va. On va commencer par celui qui fera les recos longs. Comme ça, après les autres, ils sauront qu'il faut les faire courtes. Ellie, c'est parti.
Alors... Tu me prends un peu de cours. Du coup, je pense que je vais parler à nouveau. Enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Je vais recommander un film de ce cher Jacques Rivette.
Car, ah bah tiens, non.
J'en ai découvert à nouveau et il fallait que j'en parle absolument.
Est-ce que ce film est aussi apprécié par José, tu le sais?
Bonne question.
José Eli, c'est l'alter ego portugais de... Tu suis pas Marouane, hein, c'est pas possible.
Mais j'ai regardé Jeanne Lapucelle, qui est un diptyque de Jacques Rivette, qui dure 5h30 en tout, et qui traite donc de la vie de Jeanne d'Arc, vous vous en doutez, qui est interprétée ici par Sandrine Bonner, et c'est très 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 fort ce que fait ce bon petit Jacques là, parce qu'en gros, au lieu de faire comme tout le monde a filmé d'abord le côté voile, le mysticisme de son histoire, puis les grandes batailles, puis le procès, en fait lui, il parle un peu de ça, mais il parle surtout du reste, de la vie quotidienne de Jeanne, il humanise complètement son personnage, et il casse toute cette image de sainteté qu'on peut avoir, et du coup on voit Jeanne rire, douter, pleurer, souffrir, même être méchante, condescendante des fois, et du coup c'est très très intéressant, et c'est terriblement puissant, et dans la partie 2, qui est encore mieux que la première, il y a une scène du sacre du roi de France, qui est un des trucs les plus beaux que j'ai vu de toute mon existence, et que vraiment j'ai eu des frissons pendant un quart d'heure, c'est absolument fou, et... Vu qu'il y a deux films dans Jeanne, je vais me contenter de ça cette semaine. Voilà, je vous conseille de regarder ça. Et c'est un bon film pour découvrir Rivette, même si c'est un peu long. Parce que c'est assez simple narrativement, alors que des fois il part en couille. Mais là, c'est très très épuré, très très beau.
Jeanne Lapucelle. Il y a ça ?
J'aurais une seule reco pour cette semaine. C'est une série, Misfits, donc
c'est
série britannique.
Bien.
Ouais.
J'adore.
C'est l'histoire de jeunes... petits délinquants qui se retrouvent à faire des travaux d'intérêt général, je sais pas. Et en gros, en fait, il y a un gros orage qui s'amène, la foudre tombe et ils se retrouvent avec des super pouvoirs. Et en fait, ils vont pas faire usage de ces super pouvoirs pour sauver la veuve et l'orphelin, ils vont juste les utiliser comme des jeunes qui se retrouvent avec des super pouvoirs, ils vont en user, en abuser. Ils vont se retrouver dans des situations assez compliquées, à cause de leur pouvoir, et ils s'en sortiront aussi grâce à leur pouvoir. Il y a 5 saisons, si je me trompe pas, la qualité diminue un petit peu à partir de la 3e saison, mais si vous ne deviez voir qu'au moins la première saison, elle est absolument géniale.
C'est vrai que c'est une pépite. Même si moi j'aime beaucoup le personnage qui remplace le personnage principal de la première saison, dans la saison 3. J'ai plus du tout les noms, hein,
oui.
Mais j'adore ce personnage-là.
Voilà.
Marwan, du coup, toi qui adore Misfits, est-ce que tu as des recos?
Alors, je vais recommander Headhunter. C'est le mec qui a oublié qu'il a enregistré un truc. Non, plus sérieusement...
Alors, j'ai fait un podcast un jour qui a aucun rapport, c'était sur ça.
C'est ça. Non, plus sérieusement, j'ai découvert, je l'ai pas encore terminé, un documentaire assez effroyable, comme c'est bien de faire Netflix, C'est Jeffrey Epstein, pouvoir, argent et perversion. Et c'est un documentaire qui est assez impressionnant parce que je ne connaissais pas du tout le personnage, je savais juste les principaux actes odieux qu'il a commis, mais sans savoir d'où il venait et puis comment il a construit cet empire de pédocriminalité. Et c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment bien fait, comme d'habitude, c'est comme celui qui parlait de Luca Magnotta. Je trouve vraiment que Netflix a au moins une qualité, c'est de faire des documentaires intéressants. Ensuite, c'est la découverte d'un film que j'ai vu que récemment, deux films plutôt, c'est que là, ces derniers temps, j'ai eu un bon coup de cœur pour revoir les films de Bong Joon-ho, et c'est les deux films que j'ai découverts parce que je les avais pas vus, c'est Snowpiercer et Okja. Et c'est des films qui sont assez impressionnants. J'ai une préférence pour Snowpiercer qui, étrangement, m'a pas mal bouleversé à la fin, pas dans le narration en tant que telle, mais dans le traitement de l'humanité. J'étais pas bien juste après, j'avais l'impression qu'en gros, on était pas trop loin de ça. Et puis Okja, c'est également, je trouve, quelque chose de bien, même si j'ai cette impression qu'il a du mal à... je trouve qu'il a moins de talent dans Okja à manier les genres, à les mélanger. On sent que parfois, mais même si ça reste un très bon film, j'ai l'impression qu'il n'a pas raté de film, ce mec. C'est impressionnant. Voilà, voici mes recommandations. Et toi Thierry, c'est quoi tes recommandations?
Je vais te rejoindre parce que j'imagine que de toute façon on est beaucoup à avoir vu ces deux films de Bong Joon-ho. Marwan, je suis effaré du fait que t'aies pas vu Snowpiercer plus tôt, mais en même temps c'est pas grave parce que bordel, tu viens de découvrir Snowpiercer, t'as tellement de chance. j'aimerais tellement oublier ce film tous les jours pour le revoir tous les jours, quoi.
Impressionnant.
C'est la grosse folie. En plus, c'est une fois de plus un film où il fait, c'est le premier film où il fait quelque chose d'international avec un casting mais dantesque. Et où malgré tout, à partir du moment où il y a Song Kang-ho à l'écran, on n'en a plus rien à branler des autres. Une fois de plus, Song Kang-ho est le meilleur acteur de la Terre. C'est tout. Et Okja, ouais, c'est mineur, mais c'est quand même vachement bien, putain.
Vraiment, Bong Joon-ho, incroyable.
Puis mineur, ça veut rien dire, de toute façon, ça n'existe pas. Alors moi, mes recos, deux petites choses, donc on va, pareil, aller assez vite. Je sais qu'il y en a qui ont été vus, je sais qu'il y en a un qui va réagir sur la première, c'est Le jour se lève de Marcel Carné.
Oui, putain.
Ah, voilà, tu vois, je savais que t'allais réagir.
Cinéma français d'avant Seconde Guerre mondiale, incroyable.
1939, ouais, c'est ça, on est dans le cinéma d'avant-garde, d'avant-guerre, et on sait que c'est... Tu vois quand même qu'il y a une espèce d'ambiance mortuaire, hein, c'est... On sent qu'on est en train de sombrer, on sent qu'on ne s'est pas encore remis aussi de la guerre précédente, c'est assez fort. Et en gros, on va suivre donc un personnage qui est joué par Jean Gabin, François, qui va tuer quelqu'un dans une chambre. Alors, on sait pas vraiment si c'est un hôtel au début, si c'est un appartement. En tout cas, on entend des coups de feu. On sait qu'il l'a tué. Il hurle d'ailleurs qu'il l'a tué. Il s'enferme dans la chambre. Les gens lui demandent de sortir. On est en train de prendre l'immeuble d'assaut. Et François, qui est complètement effaré par ce qui vient de se passer, s'assoit et réfléchit à qu'est-ce qui a bien pu le mener là. Et donc, on est sur un film qui est entièrement construit sur un flashback en 1939. Ce qui est assez dingue parce que, alors, je me trompe peut-être, et peut-être que le procédé a déjà été balbutié avant, mais c'est la première fois qu'un film entier est en tout cas construit sur ce principe.
T'as le roman d'un tricheur de Sacha Guitry qui fait le même principe. C'est cette idée en voix off de raconter son histoire.
Comme quoi, je dis définitivement des conneries.
Ouais, non, mais après, c'est vraiment un des premiers et ça fait relativiser le fait que ce que tout le monde disait que Citizen Kane est le premier à faire ça alors que non. Et je pense même qu'il y a des films encore avant ça, même dans en époque du muet qui déjà usait de cet artifice-là, les flashbacks doivent déjà exister avant ça.
Sûrement, oui. Ouais.
Enfin, en tout cas.
Mais c'est fou quand même comme procédé, et c'est dommage de dire que c'est Citizen Kane qui l'a trouvé, ou qui l'a utilisé en premier, quoi.
Voilà pour la première. Et donc la deuxième reco, bon alors évidemment, Marwan, on peut pas s'en empêcher, hein, nous on part forcément vers la Corée, parce que on connaît les vrais bails, on connaît la réalité. Alors pareil, alors là, j'ai souvent quand même recommandé des films coréens en disant qu'il fallait s'attendre à une certaine violence, mais là, je pense que je leur dirai pas avant longtemps ou qu'à chaque fois je ferai référence à ça. Parce que j'ai enfin vu, pauvre de moi, J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon.
Ah, je l'ai pas vu.
Alors je sais pas qui l'a vu parmi vous.
Non.
Yassa ne le regarde pas.
Si moi j'ai vu.
Toi qui va voir la
vie. On en a parlé en plus.
Eli, on est d'accord, faut pas qu'Yassa le voit. Hein.
Ah ouais.
Yassa, t'as trouvé violent.
Violent, non. Non, pas violent. Effroyable, oui, mais pas violent.
Alors en tout cas, si tu l'as trouvé effroyable, dis-toi que Choi Min-sik, qui joue ce cher Oda SE, est définitivement habitué à jouer des tarés.
Oh, donc,
Donc là, on est dans Kim Ji-woon qui est dans sa zone de confort parce qu'il joue avec des acteurs avec qui il a déjà travaillé. Chun Min-sik, il l'avait déjà eu dans The Quiet Family. Lee Byung-hyun, il l'a déjà eu déjà deux fois dans Le Bon, la Brute, le Cinglé où il jouait la brute. Il l'a eu dans Bittersweet Life qui était aussi un film assez violent avec lui. Et là, ça va raconter donc l'histoire de Soo-yeon. Soo-yeon qui est un flic qui va perdre sa compagne, qui va se retrouver juste chopé aux prises d'un tueur en série. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce cher Soo-yeon ? Il va prendre un congé, utiliser les fichiers de la police pour justement retrouver ce mec, décider de l'embarquer, de le torturer, de le mutiler, de lui faire plein de choses, puis de l'emmener à l'hôpital et de le soigner, de le laisser s'enfuir, d'attendre un petit peu et de recommencer.
Tellement tordu, putain.
Et en gros, le gars va lui faire subir toute sa vengeance et jusqu'à devenir, au final, on sait pas qui a rencontré le diable. Est-ce que c'est ce pauvre Soo-yeon qui se retrouve face à un serial killer qui est quand même complètement barré et qui va aussi rentrer dans cette espèce de jeu de chat et la souris, ou est-ce que c'est pas lui, enfin, est-ce que c'est pas le serial killer qui, après avoir tué la personne de trop, se retrouve face à ce mec qui est le diable en personne? C'est d'une violence effroyable, c'est extrêmement graphique. Les passages de mutilation et de torture sont montrés en gros plan et sans aucune hésitation. Kim Ji-woo, il y en a plein qui disent qu'il a une facilité à faire de la violence, mais je pense que là, on a atteint une certaine apogée dans le cynisme et dans la violence, quoi.
Un petit peu.
Voilà. Donc, j'ai rencontré le diable de Kim Ji-woo. Regardez ça, mais accrochez-vous. Vraiment.
Si on est facilement choqué, c'est très très difficile à regarder, je pense. Après, voilà.
J'ai presque envie de le regarder.
En vrai,
ça reste un excellent film.
Et ça se tend parce que la mise en scène est vraiment virtuose pour le coup dans la gestion de la violence, justement. Donc, vraiment, même il y a ça, tu vois. Enfin, peut-être pas toute seule, du coup, je sais pas. Si tu peux avoir un pote pour l'aider avec toi au cas où, et vraiment que ça peut te motiver si jamais t'as du mal au début et que c'est vraiment trop violent, je sais pas. C'est vraiment très intéressant et la violence est très graphique. Mais la manière qu'elle a d'être filmée, c'est complètement dingue, en fait.
On est d'accord. On est d'accord. Et ben voilà, on a réussi à empaqueter une émission sans Thomas et c'est un énorme bordel.
C'est génial, c'est
à moitié volontaire parce que même si j'avais quand même un conducteur qui était très écrit, on s'est quand même laissé porter et je me suis dit, allez-y, on s'éclate.
À peine plus d'une heure et demie, hein.
À peine. Mais en tout cas, l'épisode de la dissidence est fait.
Et à refaire.
Nous prenons le contrôle, on risque de le perdre très très vite quand il aura entendu ça. Je pense qu'il va revenir assez vite et que là, il va guérir plus rapidement. Il va lâcher va lâcher les bagnoles tunées, il va lâcher Riddick, il va lâcher Babysitter. C'est fini. Thomas va revenir et va peut-être s'intéresser à des bons films. La semaine prochaine, d'ailleurs, ça va être des gros films en pagaille. On espère qu'ils sont bons, même si on n'a pas beaucoup de doutes. On retourne vers les plateformes et on fera quelque chose sur la plateforme Carlotta. Donc, pour ceux qui connaissent Carlotta, c'est un distributeur qui propose toujours des choses assez merveilleuses. Donc, je pense qu'on va se faire assez plaisir.
Et moi, je suis très, très joyeux.
En attendant, ça va être l'heure des adieux. Du coup, j'ai envie de dire salut Yassa.
Salut.
Salut Marwan.
Salut Loulou. Salut Loulou. J'arrive pas à le dire, c'est terrible. J'ai la bouche en feu.
En français, tu dis ouloulouloulou.
Ah, c'est ça, ouloulouloulou.
J'ai eu une fugace impression que Marwan était un peu bourré.
Pas du tout. J'aurais pu l'être, mais là, non.
Tu sais, c'est un état naturel, il est tombé dedans quand il était petit.
C'est ça, totalement. On me l'a dit très tard.
Et merci, Ellie.
Merci. Salut les compañeros.
Salut.
Et merci à vous, les compagnons, ceux qui ont accepté de subir un épisode aussi bordélique à nos côtés. Merci énormément de nous avoir écoutés. Merci de nous soutenir. Merci d'être fidèles. On voit les stats. On les regarde. On le dit pas assez, mais vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait vachement plaisir. Alors n'oubliez pas que on vous aime, qu'on est prêt à vous parler. Venez nous parler sur les réseaux. Les réseaux, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram. On est là. Envoyez des petits commentaires. Ça fait plaisir. On a des personnes qui ont fait des threads quand même maintenant sur nos épisodes en nous citant directement parce qu'ils reconnaissent nos voix et on vous aime, on vous aimera jamais assez. Voilà, le cinéma c'est du bonheur, le cinéma c'est du partage, Clac Podcast c'est là pour le partage, merci à vous de nous avoir écoutés, retrouvez-nous sur les réseaux, abonnez-vous, mettez la petite cloche, venez nous écouter, je l'ai suffisamment dit, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour des nouvelles plateformes avec des films peut-être moins bordéliques, avec un présentateur beaucoup moins bordélique.
Tu carrés dans le sens du poil, c'est ça?
Mais à vous de choisir. Maintenant, on va mettre un petit débat sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous préférez justement quelqu'un de bordélique qui fait ça avec le cœur, qui sait pas trop où il va, qui parle depuis au moins 10 minutes sans s'arrêter et qui ne respire toujours pas? Ou est-ce que vous préférez quelqu'un de posé qui vous apporte peut-être moins de frissons parce qu'il sait où il va? Mais au moins, il sait où il va. C'est l'essentiel. Est-ce qu'on sait où on va?
Moi, je préfère quelqu'un qui aime Rio Bravo.
J'appelle ça une attaque.
Eh bien, Ellie, tu présenteras peut-être le prochain épisode, mais ça, c'est pas moi qui décide. C'est une idée lancée en l'air. En attendant, merci à tous. Bisous, bisous, bisous.
Bisous. Bisous.
partout.
Surtout sur les Feebles.
Oh, pitié.
Alors donc note pour Thomas pour le montage, c'est là que tu mets la bande-annonce de la double vie de Véronique, après avoir coupé toutes ces horreurs.
Oh mon dieu, bien. Le montage il va s'ouvrir les veines, hein.
Oh. La double vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski. On va le refaire. Kieslowski ou Kieslowski?
Kieslowski, ça suffira, okay. Hein.
Allez, c'est parti. La double vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski. Qui doivent ramener un leader politique pacifiste pour s'en mettre plein les fouilles. Malheureusement, entre une bande d'Américains véreux guidés par ce bon vieux Jack Palance, l'armée qui cherche à menotter nos deux hommes et les fidèles du gourou à extirper... ça veut rien dire. Alors je tiens à préciser que le résumé était écrit par Ellie.
Par moi, en 5 minutes.
Qui nous a fait une belle faute de grammaire.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être oublié une virgule, non?
Bah, et les fidèles du gourou à extirper qui font pression. Ah oui, non, si, ouais, mais c'est mal écrit. Oh, quand même, ouais, ouais. C'est maladroit.
Ouais, je t'ai dit, j'ai fait ça. Mais tu m'as demandé ça à l'arrache. Genre, tu te fais, il faut que tu écrives un résumé. il me demande ça à moi alors que c'est même pas moi qui ai proposé le film.
Mais j'ai fait les trois autres. Cet épisode est sponsorisé par À l'arrache.
Exactement.
Les vêtements pour tout petit de 3 à 5 ans qui se trouvent en 3 minutes parce qu'ils t'ont coûté 10 balles.
Je voudrais faire des séries genre de claques à l'arrache. Ça peut être sympa, ça.
Bon, Marwan.
Oui.
Vas a matar compañeros, ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous emmener au milieu des pistoleros? Alors, je tiens juste à préciser parce que avant qu'on commence, tu disais que justement Corbucci était un oublié et du coup c'est assez triste. Je tiens quand même à préciser que ce mec a réalisé 64 films.
Ouais.
Donc au bout d'un moment, c'est quand même triste qu'on ne le cite pas.
Il est pas, enfin,
comme l'immense réalisateur de...
Je pense que c'est pas le plus oublié des réalisateurs de Western Spaghetti, mais il était quand même c'est le deuxième plus connu peut-être après Léon. Parce que Léon est tellement connu qu'il couvre tout le monde, je pense aussi.
Mais alors, attendez, je crois que je suis en train de vous dire une énorme connerie. Non, il a pas réalisé 64 films. Hein.
Mais il en a fait beaucoup quand même.
Bravo cette page horrible qui dit des bêtises.
Non, mais j'ai regardé sa filmo hier quand j'ai fini le film et j'ai fait ah oui quand même.
Ah là, je vois 26. Hein. 26, c'est quand même pas dégueu.
Hein. Ah, mais c'est beaucoup. Hein.
Alors, je vous recoupe juste deux petites secondes et après, Ali, tu pourras reprendre parce que j'ai dit une connerie une fois, j'ai dit une connerie deux fois et je vais éviter de me dire une troisième connerie avant d'être encore commenté par les Jean-Marie. Moi, je connais mieux que toi du web. 51. Il a réalisé 51 films, j'ai compté. Voilà, tu peux reprendre.
Bon, je vois que tu galères dans tes fiches Wikipédia. Selon IMDB, Sergio Corbucci a réalisé 63 films.
Cet épisode est sponsorisé par À l'arrache.